Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue à Roubaix, ici sur le Vélodrome Jean Stablinski, où sera jugé à l'arrivée tout à l'heure, comme c'est la tradition depuis des dizaines d'années maintenant, de ce Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, la reine des classiques, qui mérite évidemment parfaitement son surnom, avec ses secteurs pavés à avaler, à digérer et à recracher une fois passé. On va vivre les 82 derniers kilomètres de cet enfer du Nord avec Arnaud Souk qui est à mes côtés. Salut Arnaud.
Salut Christophe, salut à toutes et à tous.
Et avec mon druide préféré, Cyril Guimard. Salut Cyril.
Oui, bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe.
Ravi de vous retrouver les copains. Je sais que vous avez déjà bien attaqué la journée avec les premiers kilomètres de ce Paris-Roubaix. Alors on va également accueillir dans un instant nos envoyés spéciaux sur les terrains de foot. On fait un tout petit point quand même de la situation de ce Paris-Roubaix, puisque la tranchée d'Arambert, premier juge de paix de cet enfer du Nord, a été avalée et n'a pas peut-être causé les dégâts, en tout cas pas les chutes, mais n'a pas décanté complètement la situation de course.
Elle a pas décanté la situation de course, mais elle a eu le mérite de montrer qu'il était fort et qu'il l'était moins. Et on a vu que Mathieu Van Der Poel était très fort, on a vu que Mats Pedersen et Jasper Philipsen étaient également pas mal, on a vu que Stefan Kung lui était peut-être un tout petit peu moins bien. Entre temps, Mats Pedersen a crevé mais a réussi à revenir dans le groupe Van Der Poel, et entre temps également trois hommes se sont extraits du peloton des principaux favoris. Il s'agit de Stefan Kung, justement le Suisse, de Nils Polite l'Allemand et du Belge Gianni Vermeersch. Il dispose de 38 secondes d'avance à 81 km 500 de l'arrivée, 38 secondes d'avance sur le groupe Van Der Poel. On est dans un secteur 4 étoiles actuellement, Cyril et Christophe de Hornain à Vendigny.
Cyril, est-ce que Van Der Poel doit se méfier des trois garçons qui sont partis devant? C'est des clients quand même, Vermeersch, Stefan Kung, Nils Polite.
Vermeersch, voilà, c'est son coéquipier.
Oui, alors Vermeersch est son coéquipier, donc il le laissera revenir. Mais bon, il peut.
Là pour l'instant, c'est une phase.
Pardon, vas-y, t'en prie, Cyril.
Oui, je dis, on est dans une phase stratégique importante avec bien sûr trois coureurs qui sont partis à l'avant, enfin deux plus un équipier de Van Der Poel sur le porte-bagages et pas n'importe lequel. On est à 80 km de l'arrivée. S'ils roulent comme ça pendant 70 km, je pense que Vermeersch leur dira au revoir dans le final. Mais la course n'est pas finie. En fait, tout ça, c'est décanté. Enfin, cette situation, elle est quand même liée à quelques crevaisons après la sortie de la trouée d'Arambert. Et ça a compliqué un petit peu les choses. Maintenant, tout est en train de rentrer dans l'ordre. J'ai envie de dire, Mats Pedersen est rentré. Il a deux équipiers. Les UAE sont également bien présents. Mais il y a d'autres équipes qui vont venir vraisemblablement rouler un petit peu plus tard. 38 secondes. En tout cas, 38 secondes pour Mathieu Van Der Poel, s'il veut sortir pour revenir, ça sera pas un gros problème dans 3 ou 4. Mais bon, regardons la course, qu'elle est vraiment en train de vivre et on ne sait pas, et tu le soulignais tout à l'heure Arnaud, est-ce que Van Der Poel est aussi bien que dans la trouée d'Arambert, il a quand même fait,
pas mal quand même.
Il a sorti tout le monde de la route, donc il semble relativement bien. Pedersen est aussi très très fort. Je pense que la course est autour de ces coureurs qu'elle va se jouer.
Sans oublier Jasper Philipsen, coéquipier de Mathieu Van Der Poel, qui est peut-être d'ailleurs...
Il m'a impressionné tout à l'heure, quand il est revenu sur le groupe après sa crevaison, quand il est revenu sur le pont Gibus, j'ai l'impression qu'il avait une jambe au-dessus de tout le monde. Hein.
Et regardez Thomas Pidcock en ce moment, qui pour son premier Paris-Roubaix, lui, qui s'est cassé la binette sur la reconnaissance du chrono du Tour du Pays Basque et qui a abandonné la semaine dernière, qui est en train de d'étirer ce groupe des favoris à 37 secondes derrière. Et on voit là toutes les qualités de cyclo-crossman, de l'ancien champion du monde de la catégorie. Donc voilà, on est dans ce secteur 4 étoiles à 80 km de l'arrivée. À noter également la présence, on a beaucoup parlé des déboires de la team Visma Lissebike avec Dylan Van Barle qui était non partant ce matin et Christophe Laporte qui a crevé tout à l'heure. On a également Tim et Mick Van Dijk, les deux jumeaux de l'équipe Visma Lissebike, qui sont présents dans ce groupe Van Der Poel.
Alors ne vous méprenez pas, vous entendez la cloche du dernier tour, mais c'est pas pour le Paris-Roubaix des seniors, c'est pour une course
c'est les espoirs
d'espoir effectivement qui
enfin les espoirs, les réserves, là il y a les réserve des grosses équipes. Hein.
C'est les teams Nevo qui sont là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils seront peut-être à l'arrivée dans la course des grands l'année prochaine ou dans deux ans. Voilà donc pour ce premier point sur Paris-Roubaix. On va aller faire un tour sur les pelouses de Ligue 1 puisque trois matchs de la 28e journée viennent de débuter. Reims, Nice, Toulouse, Strasbourg et Montpellier-Lorient. On va faire un petit point avec nos envoyés spéciaux. Arnaud Valadon, c'est le match le plus important évidemment. Reims-Nice. Salut Arnaud.
Salut Christian. Tu dis ça parce que c'est Nice ?
Ouais, pas du tout. C'est parce que c'est Reims.
Oui, oui. 6 minutes de jouer, 0-0. Mais des Niçois qui ont besoin de se remettre un peu la tête à l'endroit. Défaite face à Nantes la semaine dernière à domicile. C'est la 17e équipe sur la phase retour. Ils sont 5e avec 43 points. Et il y a une équipe de Reims, 9e avec 39 points, qui a envie d'aller se glisser dans ses places européennes et de faire un coup sur cette fin de saison. Début de partie plutôt équilibré. Attention, peut-être la première opportunité pour les Niçois avec Mofi. Ça va passer juste à côté pour l'OGC Nice. 0-0 et 7 minutes de jeu. Auguste Delaune.
Très bien. L'autre match, les autres matchs avec Toulouse-Strasbourg. Romain Amalric. Salut Romain.
Salut Christophe, salut à tous. Le match entre Toulouse et Strasbourg, c'est un peu le derby de la saucisse, hein. Toulouse-Strasbourg, le saucico avec deux équipes qui ont exactement le même bilan, 32 points, 8 victoires, 8 nuls, 11 défaites. Il y aura peut-être un changement à l'issue de ce match. 6 minutes de jeu, toujours 0-0, malgré deux premières occasions des Toulousains qui ont bien débuté le match, et notamment la tête de Logan Costa qui est passée juste au-dessus et des buts de Bélarouche. Mais 0-0 après 6 minutes de jeu.
Tu préfères laquelle de saucisse, celle de Toulouse ou Strasbourg, Romain ?
Ah, évidemment, celle de Toulouse. Pour moi, il n'y a pas photo, mais on verra. Pour le football, il y a match. Mais pour la saucisse,
bien.
Pour moi, c'est.
Il n'y a pas match pour toi. D'accord, on a compris. Montpellier-Lorient avec une autre saucisse, c'est Julien Landry. Salut,
salut, Christophe. Toi, tu les aimes toutes, les saucisses, de toute façon.
Ah,
toi, je ne choisis pas. Toi, tant que c'est dans l'assiette, c'est le plus important. 8 minutes à la Mosson, 0-0, mais suspicion de pénalty pour les Lorientais. Suite à un contrôle raté par Jordan Ferry, derrière il tend le pied et il vient toucher Carry. Alors monsieur Lissorg n'a pas du tout hésité, mais il y a l'assistance VAR en cours pour s'assurer que la bonne décision a été prise, parce qu'il nous semble en tout cas que Carry a un peu accentué sa chute derrière. Je sais pas ce que Seb en pense, s'il y a pénalty ou pas, mais voilà, c'est
ouais, il y a petit contact, mais pour moi il y a pas pénalty.
Bah moi non plus, je pense que l'exagération de Carry va lui jouer des tours, honnêtement. Je pense qu'il y a petit contact, mais je pense qu'il s'est laissé tomber derrière très fort Eman Carry. Et d'ailleurs monsieur Lissorg est appelé pour regarder lui-même les images. Donc en général dans ces cas-là, c'est qu'on estime que l'arbitre principal s'est peut-être trompé. Ouais, et qu'on lui demande de revoir lui-même et de confirmer ou pas son choix. Donc Christophe, la décision va être rapide. Voilà, monsieur Lissorg est en train de regarder de nouveau les images. Il y a contact.
Quand on voit le pied de Ferry, en fait, il revient au sol, en fait. Il revient pas sur la cheville.
C'est ça, ouais, en fait, il rate ce contrôle et après avec son pied. Mais je pense que l'exagération de Carry, parce que vraiment, Carry, il en fait beaucoup.
Le ralenti, ouais, un beau plongeon après.
Ouais, beau plongeon derrière de Carry. D'ailleurs, Jordan Ferry, il est en train de voir les images lui-même de loin et il est en train de dire que c'est complètement exagéré, mais du coup la décision elle est quand même très longue, et pour monsieur Lissorg qui regarde, re-regarde, revisionne tous les angles de vue pour savoir si oui ou non.
Dis-lui qu'on a une course de vélo à ton arbitre,
mais,
là.
Évidemment, mais ce qui est surtout un événement, Christophe, c'est que Lorient n'a jamais obtenu de pénalty depuis le début de la saison. Ah. Qu'il y a eu un article ce matin dans les journaux et que ben forcément, si le pénalty est accordé... Ah non, mais voilà, il est en train d'expliquer à Régis Lebris qu'il n'y a pas pénalty. Évidemment, les Lorientais qui se plaignaient déjà la semaine dernière de ne pas avoir eu de pénalty contre Brest. Évidemment, ça va renforcer, surtout que le VAR annule la décision. On se rappelle que Loïc Ferry, la semaine dernière, avait dit que le VAR servait à rien.
Attention, et que je pense que le président... Ça va tweeter, là.
Ouais, ah le oui, président de Lorient va être très 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 en colère.
Ah, il était très remonté la semaine dernière.
Et ben, il sera encore plus après cette situation-là, Christophe. 10 minutes, 0-0 à la Mosson.
Très bien, Seb est toujours là, évidemment. C'est un peu nos yeux parce qu'il va avoir.
Salut Christophe.
Ça va, Seb, en pleine forme.
Ça va, très bien.
L'après-midi a bien débuté avec ce match incroyable entre Brest et Metz. 7 buts à vous mettre sous la dent. On espère qu'il y en aura autant sur ces trois matchs. Mais voilà, vous ne nous coupez pas tout le temps non plus. Autrement, je vous coupe le sifflet, les gars. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour le cyclisme. Il y a le Tour de France qu'on adore. Évidemment, c'est au mois de juillet. On se régale pendant 3 semaines. Vous avez l'habitude de nous écouter sur RMC. Et
il y a cet enfer du Nord, la reine des classiques. C'est il faut bien le dire, Cyril, c'est la classique la plus importante. C'est pas parce qu'elle se déroule en France qu'on dit ça. C'est pas parce qu'on est chauvin, mais parce que pas c'est la tout. Plus belle quand même.
Oui, enfin c'est parce qu'on est français et qu'on aime bien Paris-Roubaix, quoi. Ouais. On n'est pas chauvin. Imaginons qu'on est le Tour des Flandres et que c'est la Belgique qui est Paris-Roubaix. On aurait peut-être un discours un peu différent.
Ouais, bon, ceci dit, on a une petite trêve actuellement. Toi, t'es breton, donc.
Oui, mais moi, j'ai le trop gros Léon, moi.
Ah, t'as le trop gros Léon. Moi, j'ai le trop gros Léon qui vient de temps en temps sur les routes du Tour de France. 75 km de l'arrivée. Mon petit Arnaud, on en est où dans cette course?
Alors, toujours Stéphane Koenig, Nils Polite et Gianni Vermeersch qui sont à 75 km de l'arrivée avec 27 secondes d'avance sur le groupe de Mathieu Van Der Poel, un groupe dans lequel on compte également la présence de Jasper Philipsen, de Mats Pedersen, de Jordi Meus, de Jon Degenkolb, bref, du beau monde dans ce groupe. Évidemment, je ne vais pas vous faire toute la composition. Secteur numéro 16, secteur 3 étoiles de Warlin à Brion, 2400 mètres de longueur, et c'est dans l'ordre de passage le 14e secteur du jour des 29 secteurs. On nous annonce 27 secondes d'écart, je pense qu'il y a un tout petit peu moins et qu'on est en train de réduire justement cet écart sous l'impulsion d'un coéquipier de Mats Pedersen, en l'occurrence Mathias Vacek. On va attendre évidemment ce qui va se passer dans le secteur suivant de Tillois à Sarcey-Rosières, parce qu'on sera encore sur un secteur 4 étoiles de toute manière là dans les 40-50 prochains kilomètres. On est au cœur de Paris-Roubaix, au cœur de l'enfer, mon cher Christophe.
Exactement, avec un peu plus tard aussi Cyril Mont-Saint-Pével qui est l'un des trois secteurs classés 5 étoiles. Alors vous savez, c'est l'inverse des hôtels, c'est-à-dire 5 étoiles c'est le truc le plus scabreux, le plus dur, mais nous on adore les 5 étoiles. On a eu
à l'hôtel, t'aimes beaucoup les 5 étoiles,
mais sur la route de Paris-Roubaix aussi en position de commentateur, j'adore les 5 étoiles, moi quand on est coureur cycliste évidemment. 5 étoiles, donc Arambert, Mont-Saint-Pével qui arrive un peu plus tard. Est-ce que ça peut faire la différence? On se rappelle, Cyril, que l'année dernière, justement, Van Der Poel avait mis un petit coup d'accélérateur aux alentours de Mont-Saint-Pével. Et puis évidemment, le dernier, c'est le carrefour de l'Arbre. C'est là où la différence se fait le plus souvent. C'est là qu'on va chercher la gagne.
Oui. Là, il reste 28 coureurs en course. Nous sommes à 75 km de l'arrivée. Il y a plein de grands hôtels à 5 étoiles. Donc ça peut se faire partout. Mont-Saint-Pével est un secteur, indépendamment d'être très compliqué. Je ne sais pas s'il ne va pas se retrouver, si j'ai bien regardé, avec un petit vent de côté en même temps. Ça, c'est ennuyeux parce qu'il n'y a pas d'aspi derrière à ce moment-là. Et donc les sélections peuvent se faire plus facilement. Et puis la fatigue. Attendez, on est parti depuis 200 km. Hein. On a déjà passé une bonne dizaine de secteurs pavés, pas des moindres. Et je pense qu'il y a des mollets, des cuisses qui commencent à faire mal.
Ça sera même presque trois quarts face à Mont-Saint-Pével, le vent.
Ouais. Oui, ben ça c'est bien. Si Van Der Poel il veut mettre en route, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je pense que Mats Pedersen et son équipier, là, ils sont en train de condamner les trois hommes de tête. Je le disais tout à l'heure, il va y avoir une course très très tactique dans ces secteurs, dans ces longs secteurs entre chaque secteur pavé. Les stratégies se mettent en place.
Ils les tiennent en
place. Et pour l'instant, je pense que l'échappée est condamnée à moyen terme, tout du moins, ou les efforts qu'ils sont obligés de faire pour garder leur avance, c'est pas comme si on creuse l'écart alors que le peloton laisse partir. Là, il faut faire l'écart en force et ça laisse beaucoup de traces, d'autant que dans la tête, ils doivent pas être très bien. Ils ont quand même un petit colis sur le porte-bagages qui pèse lourd.
Il a déjà été colis de Pedersen sur le Tour des Flandres la semaine dernière, souvenez-vous, hein, quand Pedersen avait tenté sa mission suicidaire.
Je crois qu'ils ont retenu une villa là-bas dans le sud de l'Espagne pour aller en vacances.
Quand même incroyable, c'est écrit Alpecin.
Qui n'était pas au World Tour il y a encore deux saisons.
Voilà, on le rappelle. Alors c'est sûr que quand tu recrutes Mathieu Van Der Poel, tu t'assures quand même pas mal de résultats. Derrière, tu recrutes Philipsen, Vermeersch. Franchement, elle aujourd'hui, c'est
Sylvain Gillier aussi, qui est un ancien deuxième de Paris-Roubaix,
et plus performante que celle de Tonton Pat, faut bien le dire.
Ah ben il n'y a absolument pas photo. Ils ont gagné les deux monuments depuis le début de la saison. Sans compter que Mathieu Van Der Poel a remporté le Grand Prix E3, Jasper Philipsen a gagné d'autres courses. Cyril, c'est clair que pour l'instant, c'est l'équipe des classiques. On pouvait imaginer que Visma Liseback soit l'équipe des classiques également cette saison. Malheureusement, Wout Van Aert a eu des soucis. C'est vrai qu'ils avaient très bien commencé en février, mais voilà, Wout Van Aert et Laporte ne sont pas là, enfin pas là ou pas compétitifs. Donc oui, Alpecin a le tapis rouge. Hein.
Oui, d'autant qu'il faut dire que Alpecin a perdu Kelish sur Crevaison au plus mauvais moment et qu'il n'a pas pu rentrer. Avant la trouvée d'un Rambert, ils étaient quand même 5 dans le groupe de tête sur 7 au départ.
Très bien, 72 km de l'arrivée, plus que 17 secondes d'avance pour les trois hommes de tête, dont Stephen Kung, le coureur de Marc Madiot, qui dans sa voiture doit un peu enrager de voir que son leader suisse ne parvient pas à creuser l'écart. Il y a quand même encore des coureurs à la formation Groupama FDJ derrière, notamment cet étonnant néo-zélandais Laurence Pitty. On part tout de suite pour Longchamp, c'est l'heure du quintet, c'est avec Fred Kita. Salut Fred.
Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, les concurrents viennent de partir pour ce premier quintet plus de l'année sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec l'As Lanaken qui a pris la tête devant le numéro 2 Amedras. À l'extérieur, on a le numéro 13 qui est Arabino qui est bien placé également. Le 14 Wild Platine en quatrième position devant le numéro 11 qui suit en cinquième position. Toujours le numéro 1 Lanaken qui est favori de cette compétition, qui a la tête et la corde devant le numéro 13 Arabino, le numéro 2 Amedras. Et ensuite, on a Wild Platine, le numéro 14 bien placé. Le numéro 12 Herald the World arrive aussi à c'est bien en retrait devant le numéro 10 Torpens. Toujours l'As Lanaken qui est en tête de ce quintet plus à peu près 600 mètres du but, et les voilà qui rentrent dans la dernière ligne droite. Il reste 500 mètres même à parcourir maintenant. L'As Lanaken en tête devant le numéro 2 Amedras, le numéro 13 Arabino qui est également très bien placé, alors que White Platine, le numéro 14, cherche le passage. Toujours le numéro 1 Lanaken en tête devant le numéro 2 Amedras, avec le numéro 13 Arabino toujours là, le 14 White Platine également, toujours l'As Lanaken en tête à 150 mètres du but, mais il est attaqué notamment par le numéro 2 Amedras, alors que tout à l'extérieur Alf termine très vite. Le numéro 3 Alf qui vient très vite de faire la différence, le numéro 3 Alf monté par Christian Demuro qui a pour l'instant l'avantage, mais le numéro 17 Étatique vient très vite finir à côté corde, et c'est le numéro 17 Étatique qui va s'imposer dans cette compétition côté corde, hein. Il a terminé aisément son parcours, le numéro 17 Étatique qui s'impose dans cette compétition devant le numéro 9 Short Final, et le 3 Alf qui pensait son jockey pense avoir fait la différence, mais il va se classer troisième de cette compétition devant le numéro 4 Ken Lee qui prend la quatrième place de ce quintet plus et la cinquième position pour le grand animateur et favori l'As Lanaken. Je vais récapituler à l'arrivée provisoire du quintet disputé aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le 17 qui s'impose devant le numéro 9, le numéro 3, ensuite le 4 et l'As.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Fred, à plus tard. Nous allons faire un petit point sur les trois matchs de Ligue 1 qui ont débuté à 15h. C'est la 28e journée de Ligue 1 et Reims reçoit Nice. Arnaud Valadon, on est
18 minutes de jeu, 0-0. Attention, peut-être Mohamed Ali Chou qui s'est créé une grosse occasion. Le retour d'Ito, rencontre très animé avec des occasions.
Toulouse-Strasbourg, le Saucico avec Romain Amalric.
17 minutes de jeu, toujours 0-0, mais rencontre animée ici aussi au Stadium de Toulouse avec 25 000 spectateurs. C'est à noter parce que vous le savez évidemment, dans quelques minutes de l'autre côté de la ville, oui, il y a un gros match de rugby, donc c'est bien de voir aussi qu'il y a quand même encore 25 000 spectateurs pour le foot cet après-midi au Stadium de Toulouse, malgré les presque 19 000 spectateurs qu'il y aura tout à l'heure à Ernest Vallon. Voilà,
voilà, et on a mis ta doublure sur le match de rugby.
Il a moussé la saucisse, lui, tiens.
Il les a toutes bouffées, les saucisses, déjà. Vous le dites qu'on va retrouver tout à l'heure. Montpellier-Lorient, c'est avec Julien Landry.
19 minutes à la Mosson, toujours 0-0. À noter aussi qu'il y a du rugby en même temps, au même match, mais challenge européen pour le MHR, en train de se faire étrier par les Irlandais de l'Ulster, d'ailleurs, 17-33. Ça va très bien, Montpellier qui joue à 14. Nouveau carton rouge de Paul Willemse pour un plaquage au visage. Ouais, là, rien ne va plus pour les Montpellierains. Et le foot va pas mieux. 20 minutes 0-0, mais grosse domination des Bretons qui, on le rappelle, ont eu un pénalty refusé après appel à la VAR. 20 minutes 0-0.
Merci les garçons, il est 15h19. Dans 40 minutes, on retrouvera évidemment Wilfried Templier pour ce 8e de finale de la Champions Cup, pour savoir qui de Toulouse ou du Racing rejoindra l'UBB et La Rochelle en quart de finale. J'ai deux représentants, on est sûr d'en avoir un troisième. Ça sera un beau week-end que nous vivrons la semaine prochaine. À tout de suite, vous êtes sur RMC, les 15h19, on est à 69 km de l'arrivée et le groupe de tête n'a plus que 3 secondes d'avance sur le groupe du favori Mathieu Van Der Poel. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport sur RMC cet après-midi avec du foot, avec du vélo, avec du rugby, puisque on suivra évidemment tout à l'heure le 8e de finale entre Toulouse et le Racing. Ce sera à 16h. Mais en attendant, nous sommes à 66 km de l'arrivée et le trio de tête a été avalé par ses poursuivants. Et parmi ses poursuivants, il y a évidemment Arnaud Souk, le grandissime favori de ce Paris-Roubaix, pour se succéder à lui-même et pour réaliser également le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix qui n'a plus été fait depuis un moment. Maintenant, le dernier, c'était Cancellara, me semble-t-il.
C'était Bounen, 2008. Non. Le back-to-back. Je croyais que tu parlais du back-to-back. Gagné Paris-Roubaix deux années d'affilée. Ouais. Ça, c'était Bounen 2008-2009. Et effectivement, Fabian Cancellara est le dernier à avoir réalisé ce fameux doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. Reconnaissable, évidemment, Mathieu Van Der Poel à son maillot arc-en-ciel de champion du monde. Gagné à une semaine d'intervalle le Tour des Flandres et Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde. Ça, je suis pas sûr que ça ait été fait dans l'histoire. Faudrait que je vérifie. Mais j'en suis pas certain. Dans ce groupe de tête composé de 17 coureurs, on a la présence de Mathieu Van Der Poel, donc, qui est accompagné du côté d'Alpecin de Koenig par Gianni Vermeersch, par Jasper Philipsen. On a également du côté des autres favoris, on peut compter la présence de Nils Polit, on peut compter la présence de Jon Dagenkolb, de Stefan Kung, Tim Wellens et là Mats Pedersen également est là, et puis on a notamment Soren Verenskjold. Bref, en tout cas, on est rentré dans un nouveau secteur pavé de Beuvry-la-Forêt à Orchy, Cyril, et on continue à écumer à 65 km de l'arrivée. On n'en parle pas beaucoup de ces pavés, on a l'impression que c'est une formalité pour les coureurs. Mais si tu as plus qu'une vingtaine de coureurs en tête, c'est que ça ne l'est pas.
Oui, il en reste, je crois, c'est 18 devant, puisque le groupe de tête s'est scindé en deux sur le dernier, le précédent secteur pavé. Il y avait là aussi un vent très gênant pour les coureurs. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une dizaine de coureurs qui n'avaient plus les jambes pour pouvoir accompagner à partir du moment où on vissait un tout petit peu plus. Donc, ils ont été lâchés une première fois. Je pensais qu'ils allaient pouvoir revenir. Malheureusement pour eux, on arrive sur un nouveau secteur pavé. Quand on arrive sur un secteur pavé, ça accélère toujours. Donc, ils ne rentreront plus maintenant.
Voilà, ils ne rentreront.
Et on remarquera aussi qu'il y a trois Alpecins devant. Donc, ils sont en force. On a deux Visma, deux groupes
Groupama
FDJ. Puisque il y en a un qui a été, et puis on a deux coureurs des Émirates ils sont en train finalement de rentrer avec Lévis Asquet. Donc tout se regroupe sur ce secteur pavé, mais ça veut dire que tous les coureurs qui ont été décrochés tout à l'heure il y a quelques minutes sont secs.
Il y en a quelques-uns qui évitent les pavés, qui se mettent sur le côté droit, qui font du cyclocross là.
Oui, effectivement, Arnaud. On aperçoit notamment notre ami Lawrence Pitti, le jeune et très prometteur néo-zélandais de l'équipe Groupama FDJ, qui fait du cyclocross sur le côté avec Mats Pedersen. On a également Fedorov qui a réussi à revenir. C'est plus dur pour Fred Wright. On le voit qui lui a choisi de rester sur le pavé. On comprend vraiment que c'est beaucoup plus facile de passer à droite de la route, en tout cas plus rapide. Même si là actuellement Mathieu Van Der Poel lui est en train de donner une leçon sur le haut du pavé. Il y en a un qui fait une impression de dingo quand même. Encore une fois, on en a beaucoup parlé de ce coureur, il a pourtant beaucoup donné. C'est Gianni Vermeersch, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, même si là à la sortie du pavé il a choisi de passer sur le bitume.
C'est triché là, ils sont passés sur le bitume. Non mais t'as pas le droit,
c'est sanction ça. Non, non, plaisante, évidemment.
C'est le carton rouge, tu sais qu'ils veulent mettre des
cartons. Il y en a eu tout à l'heure,
je vous ai entendu, j'étais dans la voiture, je vous ai écouté religieusement évidemment, et effectivement, cette initiative de l'UCI qui veut évidemment engranger quelques amendes supplémentaires à payer en francs suisses.
Bien évidemment, puisqu'on rappelle que l'UCI siège à Aigle en Suisse.
Exactement. Très bien. On va faire un petit tour sur nos matchs de Ligue 1, puisqu'on a proche de la demi-heure de jeu. C'est le cas entre Reims et Nice. Arnaud Valadon, toujours rien de marqué.
La 29e, 0-0, rien de marqué, mais des occasions et elles sont plus nombreuses côté niçoise avec un coup franc de Boga que Yevan Diouf est allé chercher près de son poteau droit. Il y a quelques instants, une frappe de Boudaoui captée également par le gardien rémois. Il y a beaucoup plus d'occasions niçoises dans cette partie.
Ils souffrent les rémois là. Franchement, ouais. Nice, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus jouer comme ça.
Dans l'intensité, la transition, il y a beaucoup de transitions.
Ouais, voilà. Bichot, Boga là, ça va à 2000 à l'heure, ils les mettent vraiment en difficulté.
Ils dominent le milieu de terrain, cette bataille du milieu de terrain. Il faut dire que les retours de Kefren Thuram et Rosario font quand même du bien. Là, ils ont un coup franc à 30-35 mètres qui vont devoir négocier les Niçois. 0-0 et on joue depuis 29 minutes à Reims.
Alors, est-ce qu'il y a un but à Toulouse, entre Toulouse et Strasbourg? J'ai pas l'impression non plus, Romain.
Non, il n'y a pas de but encore. 27e minute, 28e maintenant, toujours 0-0. C'est animé, c'est équilibré. Ça chauffe un peu quand même devant les buts de Bellarouche. Et encore une fois, une tête de Rasmus Nicolaïsen, le défenseur toulousain, qui était monté sur un corner. Ça passe au-dessus des buts du portier strasbourgeois. C'est vrai qu'il y a eu, même si c'est équilibré, il y a eu quelques situations intéressantes hein, pour les Toulousains, avec notamment tout à l'heure à 14e minute de jeu, la volée de Vincent Ciro, le capitaine, qui a été bien sorti d'une parade par le portier strasbourgeois. Il y a des situations, mais toujours pas de but pour l'instant au Stadium de Toulouse. 0-0 donc entre les deux équipes.
Alors je vais encore tenter ma chance avec Julien Landry sur Montpellier-Lorient, non ?
Toujours pas non plus, la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Alors nous, on a eu un pénalty qui n'a pas été accordé, qui aurait pu au moins permettre peut-être l'ouverture du score, mais c'est vrai que là aussi, sur cette première demi-heure, la domination elle est lorientaise, mais aucune action franche à signaler, aucune parade pour les gardiens, ni pour le Comte, ni pour Mbogo. Les Montpellierens qui opèrent en contre et qui ont eu une bonne situation par Jory Chautard, mais frappe non cadrée, et c'est vrai que les Montpellierens sont dominés pour moi par ces Lorientais.
Dans le jeu, Lorient propose plus de choses quand même.
C'est impressionnant hein, les Lorientais, la manière dont ils sortent la balle proprement, c'est parfois cette volonté de sortir proprement, mais pour le moment pas de situation franche, et les Montpellierens ont même tendance à laisser la balle aux Lorientais et d'essayer d'opérer en contre avec Nordin et Tamari.
Le week-end dernier, ils avaient dominé quasiment tout le match cette équipe de Brest et puis c'était fait piéger.
Bon Seb, voilà. C'est pas l'heure de faire la sieste hein. Je sens que t'es sur le coup là.
Moi j'ai tout donné sur le match de 13h pour ça, donc ça te dit.
Très bien, on vous retrouve un peu plus tard messieurs. Je vous rappelle qu'il restera encore deux matchs à jouer dans cette 28e journée. À tout à l'heure à 17h05 entre Monaco et Rennes, et ce soir 20h45 le match qui va opposer le FC Nantes à l'Olympique Lyonnais. Retour ici sur la route de Paris-Roubaix. Il est 15h30, il reste encore 61 km. On est très en avance sur le meilleur itinéraire horaire. On va sans doute une nouvelle fois battre le record de l'épreuve si ça ne mollit pas hein.
49 km/h de moyenne, a priori ça ne mollira pas. On a toujours effectivement beaucoup d'avance sur la moyenne haute estimée par les organisateurs, qui était de 46 km/h. On va avoir une dizaine de minutes d'avance, donc ça arrivera tout à l'heure, a priori juste avant 17h. L'explication elle est toute trouvée, puisqu'il souffle un vent de sud. Vous n'aurez pas été sans le remarquer avec les températures très élevées sur la France, y compris sur le nord de la France, depuis quelques jours. Je ne veux pas faire de la météorologie, mais voilà, ça me semble assez logique. Et donc Paris-Roubaix, ça va du sud vers le nord de Paris, vers Roubaix, de Compiègne vers Roubaix. Donc voilà, ça explique, vent dans le dos évidemment, la vitesse extrême aujourd'hui, la moyenne horaire extrême que les coureurs sont en train d'accomplir avec ce groupe donc de 28 unités, si je dis pas de bêtises. Ça s'est regroupé Cyril avec un Français dans ce groupe, Hugo Page, mais
on
surtout
a trouvé un Français
mais surtout avec
sauver le soldat Page.
Mais sauvons-le, mais il est rapide hein, au sprint hein, Hugo Page. Moi j'étais quand même en train de me demander, j'ai pas l'impression pour l'instant Cyril que qui que ce soit soit en capacité de faire une énorme différence. Alors tu me diras, il reste encore Mont-Saint-Pével qu'on fait en Pével et le carrefour de l'Arbre, mais je veux croire qu'on puisse avoir une arrivée dans un petit groupe. Peut-être pas à 28, mais pourquoi pas à 10 comme quand Guédon avait gagné en 1997. Non Cyril.
Oui, non, il est pas interdit de croire, hein, mais pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation. Il n'y a pas de course en ce moment. Hein. Ça réaccélère parce qu'on va arriver sur le secteur de Orchy avant d'arriver sur Mont-Saint-Pével. Mais on remarquera que depuis qu'il y a eu ce coup qui est parti avec Koum et Nils Polite accompagné de Vermeersch, eh bien, j'espère Philippe Sen et Mathieu Van Der Poel n'ont pas donné un coup de pédale. Ils font la sieste.
C'est bientôt la fin de la sieste. Hein. Moi, je pense que la fin de la sieste, elle va se situer à Mont-Saint-Pével. Parce que je pense qu'il va donner un petit coup de semonce.
Mont-Saint-Pével dans 12
kilomètres. Mais tu as le droit de penser comme on a le droit de croire.
Alors, chacun pense. Donc, Arnaud nous pronostique.
Non, je pronostique pas. Je pronostique pas. J'aimerais un tout petit peu plus de suspense que la semaine dernière sur le Tour des Flandres.
Ça bouge.
Oh, Mathieu Van Der Poel, qu'est-il en train de faire son secteur d'Orchy ?
Vous disiez que la fin de la sieste arrivée.
Ben voilà, Mathieu Van Der Poel a décidé, alors que le soleil est caché par les nuages ici sur Roubaix, de faire lui briller l'arc-en-ciel sur Orchy. On a Pedersen, on a Kung, on a Jordi Meuss, on a également Yondagen Kolb qui sont à quelques mètres derrière. Et oui, voilà, il va falloir sortir l'écrou. La première flèche lancée à 60 km par Mathieu Van Der Poel. C'est c'est une distance plus importante que là où il avait attaqué la semaine dernière sur le Tour des Flandres, puisque si je dis pas de bêtises, il avait attaqué dans le Koppenberg et c'était placé à 38 km de l'arrivée. Et bien Mathieu Van Der Poel, peut-être va-t-il faire 60 bornes tout seul. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas.
Ben, il c'est une flèche pour Philippe Sen. Il s'est peut-être entraîné sur le Tour des Flandres seulement.
Pour moi, c'est une flèche pour Philippe Sen, ça.
Ah, tu penses qu'il travaille pour Philippe Sen?
Je sais pas. Je peux l'imaginer.
Pour l'instant,
c'est long.
Philippe Sen donne pas un coup de pédale en dehors de sa crevaison. Depuis le départ, Philippe Sen n'a pas donné un coup de pédale.
Ouais.
Et là, on a vraiment
posé la question l'autre jour à Christophe Rudort, hein, le manager général adjoint, enfin le principal directeur sportif de cette équipe Alpecin. Alors que là, c'est Cédric Belen, ça, qui était dans le groupe de tête, qui a chuté. Oui, donc j'ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe? On joue pour Mathieu Van Der Poel, on joue pour Jasper Philipsen? Bah, je sais pas. On verra pendant la course. On a deux leaders ou on n'a pas de leader? Bah, je sais pas. On verra pendant la course. Non, mais d'habitude, c'est clair. Ne l'est pas.
Arnaud, enfin, je sais pas, mais peut-être que tu as raison. Mais j'ai du mal à imaginer que le vainqueur sortant de l'épreuve, champion du monde en titre, vainqueur du Tour des Flandres, qui a évidemment une carte énorme encore à aller jouer pour entrer un peu plus dans la légende, travaille aujourd'hui pour Philippe Sen. J'ai un peu de mal à y croire. Peut-être que
Le tour, hein.
Je sais que sur le tour, on était quand même dans.
Et regarde
dans
ce Milan-San Remo. Regarde ce Milan-San Remo.
Ouais, je sais.
Non, mais après, je te dis pas que c'est le cas, mais on peut imaginer en tout cas que si jamais le coup de Van Der Poel ne marchait pas, bah derrière, oui, ça profite potentiellement à Philippe Sen.
Mais pourquoi attaquer de si loin, Cyril? Alors, est-ce que toi tu as une explication?
Ben, d'abord parce qu'il se sent fort. D'autre part, c'est quand même pas mal joué du tout. On sait que quand il est bien lancé, c'est difficile de le ralentir devant. On a pu le voir encore là au dernier tour des Flandres. Et s'il arrive à creuser un écart assez rapidement de 25 ou 30 secondes, qui va rouler derrière? Il n'y a plus d'équipiers, il n'y a plus que des leaders. Le problème, c'est que vous ramenez Vermeersch, mais surtout vous ramenez Philippe Sen, dont vous avez perdu. Ouais. Eh oui, c'est aussi simple que ça sur le papier. Après, il faut que Van Der Poel, il ait les jambes pour aller jusqu'à l'arrivée. Mais est-ce qu'il y a des coureurs derrière qui ont les jambes pour aller le chercher? Ça, c'est plus compliqué. Il faudrait que tout le monde, que tous les autres leaders qui sont derrière, sur les parties bitumées, eh bien, se donnent la main et roulent ensemble. Mais dans ces cas-là, vous ramenez de toute façon Philippe Sen. Ouais. Donc l'attaque,
oui, mais ils vont le faire quand même,
un peu prématurée et peut-être pas mal jouée du tout.
Eh bien, nous allons voir ça. Première attaque, donc Mathieu Van Der Poel qui a décidé de bouger le cocotier dans ce Paris-Roubaix à 60 km de l'arrivée. Il possède 8 secondes. Il ne creuse pas les écarts pour l'instant sur ses anciens compagnons d'échappée. On va voir comment ça tourne dans les minutes qui viennent. Les matchs de Ligue 1 avec l'approche de la fin de la première mi-temps entre Reims et Nice, Arnaud Baladon.
8 minutes avant la pause, 0-0. Débat équilibré. Cette fois-ci, ce sont les Rémois qui dominent.
Toulouse, Strasbourg, Romain, Madrid, où en est-on? 36 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est domination, légère domination des Toulousains qui posent bien le jeu, qui essayent de construire leurs attaques. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver la faille devant le but d'Ala Bélarouche, 0-0, 36e.
Et puis Montpellier-Lorient avec Julien Landry. Vous êtes sympas les gars, vous ne nous coupez pas trop là cet après-midi. Ouais, hein,
on aimerait bien Mathieu Van Der Poel sur notre pelouse aussi pour secouer le cocotier, parce que pour le moment il bouge pas beaucoup le cocotier sur la pelouse de la Mosson. 0-0 et il reste encore 8 minutes à jouer.
Bon Seb, tu te régales? Tu te régales Sébastien?
Franchement, je regarde plus le tour, le Paris-Roubaix là. Je vais en bas d'un petit écran.
C'est bien, on l'a converti. On a réussi à le convertir, le Nantais. On n'a que des Nantais, on n'a que des consultants Nantais là sur l'antenne cet après-midi. Avec Seb, évidemment, ancien joueur des Canaries, et Cyril Guimard, notre Nantais qui est aussi fan de foot que de vélo, enfin peut-être un peu plus de vélo quand même. Allez, il est 15h37, on revient dans un instant sur la route de Paris-Roubaix à 56 km de l'arrivée. Où en est-on? Les écarts
11 secondes en faveur de Mathieu Van Der Poel et Pedersen qui essaye lui aussi de remuer le cocotier les poursuivants, sauf que qui est là pour être sur le porte-bagages de Pedersen? Gianni Vermeersch.
Et voilà, le garde du corps, il a deux corps à garder aujourd'hui, Vermeersch, hein, c'est
compliqué. Il les garde très bien. Je tiens juste à vous signaler, puisque là j'ai les solos les plus longs de l'histoire de Paris-Roubaix. Le plus long, c'est André Ichmil en 1994. Il avait fait 60 km.
Ah ben voilà. Il veut peut-être battre le record de André Ichmil.
Alors là, il va en battre un paquet des records aujourd'hui, hein, s'il gagne. Hein.
On verra ça. En tous les cas, ça continue de creuser légèrement. 12 secondes d'avance, il est 15h38. On revient dans un instant pour la suite de cette Enfer du Nord. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
L'Intégral Sport cet après-midi avec au programme la Ligue 1, au programme Paris-Roubaix, au programme le dernier huitième de finale de Champions Cup de rugby qui débutera dans 20 minutes. On retrouvera tout à l'heure Wilfried Templier pour ce match entre le Stade Toulousain et le Racing. Interdiction de regarder le rugby.
Ah oui, pourquoi?
Non, parce que
je vais me gêner, tiens.
Concentré.
Mais
concentré.
Oui. Concentré sur Paris-Roubaix, c'est bien plus important.
Tu écouteras éventuellement Wilfried quand il aura la parole, c'est-à-dire pas toujours. Je le préviens d'avance, lui aussi. Alors, on fait un point sur ce Paris-Roubaix. On est à combien de l'arrivée?
On est à 53 400 km.
Il y a un homme avec plein de couleurs dans le dos.
Il y a un homme en arc-en-ciel qui voudrait faire comme Peter Sagan en 2018 ou comme Bernard Hinault en 81 ou comme Eddy Merckx en 68, c'est-à-dire gagner Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde.
C'est la classe, Mathieu.
Van Der Poel qui est en train de creuser seconde après seconde. Il en a 23 actuellement alors qu'on est dans le secteur numéro 12, c'est-à-dire le 19e sur les 29 secteurs pavés du jour. Il a 23 secondes d'avance sur un groupe qui est tétanisé, j'ai envie de dire, par Gianni Vermeersch qui saute sur tout ce qui bouge. On a vu Pedersen essayer de bouger tout à l'heure. Là, c'est Stefan Kung actuellement qui lead ce groupe, mais qui a Gianni Vermeersch encore une fois dans sa roue. C'est quand même pas si mal que ça, hein. Si c'est une flèche, c'est une belle flèche qu'a tiré l'équipe Alpecin de Koenig, Cyril. Hein.
Sacré flèche, Cyril.
Oui, mais tactiquement, sur le papier, comme je dis, ça sent bon. Ils sont en position de force, puisque il a quand même deux équipiers derrière, dont Vermeersch, qui fait un travail absolument extraordinaire, et avec toujours Jasper Philipsen qui fume la pipe tranquillement. Donc les écarts d'ailleurs qui grossissent, car là je pense qu'on est passé pratiquement aux 30 secondes, donc l'écart continue de grossir, et dès qu'il aura passé les 30 secondes derrière, ce sera terminé. Pour l'instant, on y croit encore. On a essayé de sortir à plusieurs reprises
à 30
derrière.
Secondes, c'est terminé. À 30 secondes, tu considères que c'est terminé, que plus personne.
Qui va rouler derrière pour boucher le trou?
Oui, je sais bien, mais. Ouais, il est en train de nous tuer le suspect une nouvelle fois, notre ami. C'est incroyable.
Mais ça fait partie du jeu, ça. Le suspense, c'est bien, parce que moi, pour faire un spectacle. Là, il est à 30 secondes. Oui, derrière, il n'y a personne qui a les jambes pour aller chercher en individuel. Il faudra y aller en collectif, et en collectif, ils ne sont pas capables de le faire.
Ouais, c'est compliqué. On voit notamment compliqué pour Fred Wright. On voit que c'est compliqué pour Thomas Pidcock et Mathieu Van Der Poel qui creusent seconde après seconde. 33, 34 même secondes actuellement d'avance à 775 mètres de la fin de ce secteur 4 étoiles entre Auchy, les Orchies et Bercé. Et sachant que le prochain, messieurs, sera le secteur 5 étoiles de Mons en Pévèle. Ça commence à sentir pas trop mauvais pour Mathieu Van Der Poel.
Ah ouais, Mathieu Van Der Poel qui est en train de réaliser un truc énorme. Alors, la semaine dernière, on se souvient que dans le Tour des Flandres, il s'était échappé à 45 km de l'arrivée.
38, il me semble.
38,
si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'était un peu plus que ça. Il avait quand même, enfin, c'est ce qu'il disait à l'arrivée à ton micro, Arnaud, eu un peu de mal quand même dans le final, mais les conditions climatiques étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
Il faisait froid, c'était mouillé.
C'était humide. Le pavé, en plus, n'a rien à voir avec celui de Paris-Roubaix, dans le sens où c'est un pavé qui est quasi systématiquement en montée, et même sur des montées assez violentes, hein, sur le Koppenberg. On a des passages à 20% et il avait fait une différence monstrueuse. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il nous a dit l'autre jour, quand on l'a vu en conférence de presse, ça va être trop compliqué pour sur Paris-Roubaix. Enfin, c'est plus compliqué pour moi sur le Tour des Flandres que sur le Tour des Flandres de faire des différences sur Paris-Roubaix parce qu'il n'y a pas les montées. Écoute, on n'a pas l'impression que ça soit si compliqué que ça, sachant que Mats Pedersen actuellement est en train de mener la poursuite. C'est amusant de voir qu'il a Gianni Vermeersch et Jasper Philipsen sur le dos. Qui sont Gianni Vermeersch et Jasper Philipsen, deux coéquipiers de Mathieu Van Der Poel, encore une fois. La rayonnance, j'allais dire.
L'avantage de la supériorité numérique.
Ils sont imbattables aujourd'hui. Imbattables.
Oui, il y a la supériorité numérique et puis j'ai presque envie de dire la supériorité de deux coureurs, Philipsen et Van Der Poel. Rappelez-vous, 1 et 2 l'an dernier quand même. C'est quand même une référence. Et Philipsen qui gagne aussi Milan-San Remo en début de saison. Pedersen, c'est vraiment le seul qui a vraiment les jambes pour essayer de faire quelque chose. Mais là, il a accéléré. Et puis là, les deux équipiers de
Il n'y a personne qui peut se joindre à Pedersen. personne, mis à part les deux Alpecines, il y a personne d'autre qui arrive à suivre le rythme. On sent qu'ils sont quand même un peu usés. Hein,
tous les et encore, si Philippe Sen il accélère, il s'en va là.
Non, mais de toute manière, moi je trouve que c'est très logique. En fait, ça correspond. On disait tout à l'heure
domination sur les classiques.
Oui, et puis non, mais même c'est très logique, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu dans la Trouée d'Arran en mer tout à l'heure. Où, en fait, il y avait quatre bonhommes, et parmi ces quatre bonhommes, il y avait Mathieu Van Der Poel, Jesper Philipsen et Mats Pedersen. Bon, ben voilà, on retrouve Mathieu Van Der Poel devant et derrière Mats Pedersen qui est le seul à essayer de chasser. Et dans sa roue, le seul qui peut suivre, c'est Jesper Philipsen. Bon, mais voilà, maintenant, sauf incident pour Van Der Poel, mais enfin bon.
Oui, on croit. On voit que
pour
même
revenir sur le Tour des Flandres et
Van Der Poel. Rappelle les championnats du
monde. Oui, absolument. Ouais.
Oui. Pour revenir sur et là justement faut qu'il en tienne compte. Pour revenir sur le Tour des Flandres, moi je l'ai vu quelques minutes après en interview. Visiblement, il était en épuisement glycogénique. Hein. Il était au bord de la, complètement, parce qu'il y a des respirations, des mimiques qui font que quand quelqu'un est en hypo.
Mais je trouvais qu'il avait un peu les yeux dans le vague, effectivement. Mais Arnaud n'est pas d'accord.
Il n'aurait pas fallu 5 bornes de plus. Mais bon, il dépense tellement, il a une capacité à aller tellement haut dans l'effort que il brûle beaucoup plus de glycogène.
On l'a vu s'alimenter donc, d'ailleurs. Puisque tu parles de...
Oui, voilà. juste sur la fin. Donc là, il faut qu'il en tienne compte également. Puis il faudra qu'il tienne compte d'une chose aussi.
Mais là, il avait un petit gel dans la main.
Oui. Non, regardez bien ces trajectoires. Elles sont impeccables, mais sur les dernières, là, je suis désolé.
C'est vrai que...
Il limite, et il prend un tout petit peu de risque. Donc, la fringale, ça peut le guetter. Il peut aussi faire un vol par terre. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça y est, maintenant, c'est fini. Le groupe arrière vient tout... Le groupe vient de se relever derrière.
Une 5
avec Tim Wellens qui tente quand même malgré tout de chasser, mais derrière Johnny Vermeer qui
essaye de sortir de l'arrière, mais il va se retrouver obligatoirement avec un Alpecin sur le dos. C'est ce qui est fait d'ailleurs.
Voilà, 1-0-6 d'avance désormais pour Mathieu Van Der Poel. Ça ne roule plus derrière. On tente de relancer peut-être avec un coureur la formation Visma.
Oui, c'est l'un des Van Dijk, mais cette fois-ci, c'est Jesper Philipsen qui saute dessus avec Nils Polite qui va essayer d'y aller également. Stefan Kung qui s'anime également. On voit Mats Pedersen qui lui aussi va être à la relance. Allez, si ça constitue peut-être un petit groupe intéressant de 5 ou 6 coureurs qui arrivent à se relayer, ça pourrait, pourquoi pas, revenir sur Mathieu Van Der Poel qui a tout de même 1 minute et 6 secondes d'avance. À l'instant où on rentre dans le secteur 5 étoiles de Mons-en-Pévèle. Mons-en-Pévèle, c'est 3 km, j'allais dire de bonheur pour les yeux, 3 km de malheur pour ceux qui maîtrisent le moins les pavés, Cyril. C'est l'un des secteurs 5 étoiles, l'un des secteurs les plus difficiles.
Oui, un des plus difficiles, peut-être même le plus difficile compte tenu de la fatigue accumulée depuis le départ de Compiègne. On le voit maintenant, là, tous les coureurs que nous avons, qui sont acteurs actuellement de ce Paris-Roubaix, ils n'ont pas tous des jambes absolument extraordinaires. Ils sont cuits, ils sont laminés, et maintenant ça va être difficile de se refaire pour pouvoir revenir sur Mathieu Van Der Poel. Une fois que l'écart est fait comme ça, il faut vraiment vraiment être très fort pour y aller. Mais si vous êtes très fort pour y aller maintenant, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, c'est que vous n'aviez pas. Maintenant, tous ceux qui vont sortir, ils sont cuits.
Ouais. Ils sont cuits et ils ont pas
les attaques sont moins tranchantes. Les attaques sont moins tranchantes derrière.
Elle était pas mal celle-là de Van Dijk, mais encore une fois, t'as Johnny Vermeersch qui a surgi avec derrière
pas, attends, regarde, il a pas de force.
Pas de force. M'engueule pas, Cyril. Moi, j'y peux rien.
Ah, mais si. mais si.
Ah, mais moi, j'y peux quelque chose. D'accord, formidable. Entrée à l'incendie et poursuivant sur le secteur de Mons-en-Pévèle. Mathieu Van Der Poel, lui, qui est très, très bien à 2 km de la fin de ce secteur de Mons-en-Pévèle, à 47 km 600 de l'arrivée et une 14 même d'avance pour Mathieu Van Der Poel.
Non, à mon chrono, une 10. Mon chrono, une 10.
Ouais, et le chrono de Cyril est très efficace, évidemment. Il l'a acheté en 1917 et il marche toujours très très bien.
Et il marche bien.
Ouais, bonjour toujours dans ce secteur pavé de Mont-Saint-Pévèle.
Il crève jamais quand même, Mathieu
Van Der Poel. Non, en plus.
Il crève jamais.
Il n'a jamais prononcé ça.
Non, mais pardon, non, mais c'est, non, c'est, je veux pas lui porter la poisse, mais Cyril, tu vois très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que on parle souvent de la chance, lui-même a parlé de la chance, mais il y a aussi la façon de savoir exactement comment prendre les secteurs. Je ne sais plus quel coureur, je crois que c'était Bounen qui à l'époque faisait des reconnaissances dans les secteurs, notamment dans le carrefour de l'arbre, il passait à la corde les secteurs pour voir exactement où est-ce qu'il y avait les ornières pour éviter justement d'aller mettre sa roue dans les ornières. Il faisait les reconnaissances où il passait plusieurs fois à la corde à des vitesses bien données pour exactement voir où il fallait mettre les roues et ben voilà, il réussissait derrière à gagner. Donc il n'y a pas de hasard non plus, c'est ça que je veux dire.
Ouais, Mathieu Van Der Poel,
le hasard le hasard fait bien les choses.
Voilà, une 29 d'avance désormais à 46 km 800 d'arrivée. Il peut arriver avec 5-6 minutes d'avance. Il continue à ce rythme-là. L'extraterrestre, champion du monde, Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond, qui est le recordman français du nombre de participations à Paris-Roubaix. Il l'a parcouru à 18 reprises quand même. Notre ami Poupou, qui de là-haut doit encourager son petit phénomène, celui qu'il appelait Papy, évidemment, qui est une nouvelle fois impressionnant. Allez, on va faire un petit tour sur les pelouses. Ah non, c'est la mi-temps. Donc je pense qu'ils sont toujours là. Oh, ils sont sympas. Ils écoutent le vélo, évidemment. C'est le cas d'Arnaud Ladon pour ce match entre Reims et Nice. Arnaud,
absolument, on vous écoute avec bonheur. C'est la mi-temps 0-0, mais un incroyable raté niçois, ça va te mettre ronchon, Christophe, puisque Boga au deuxième poteau à 4 mètres, il est tout seul suite à un centre et il a simplement pas cadré, il a envoyé ça de l'autre côté au troisième poteau. Globalement, domination niçoise, mais au score ça fait 0-0 sur la pelouse de Reims.
Bon, Romain Malric, est-ce qu'il y a eu des occasions dans ton Toulouse-Strasbourg là?
Ah, des occasions, il y en a, mais ça s'est terminé sur un 0-0 à la pause. Légère domination toulousaine avec pas mal d'occasions toulousaines en première période, mais une mi-temps qui s'est terminée par un coup franc de Kevin Gamero dont la frappe est passée vraiment juste au-dessus de la lucarne de Guillaume Rest. Donc comme toujours au stadium, le spectacle et les buts, c'est surtout en deuxième période. Donc à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Julien, pour Montpellier-Lorient. Lui aussi, il écoute le vélo. Je sais qu'il adore ça. Hein, mon Julien.
J'ai même l'écran devant les yeux. Alors, vous êtes trop en avance par rapport à moi, donc des fois, j'enlève le casque. Non, 0-0 également ici à La Mosson. Triste spectacle, même si les Montpellierains ont une dernière situation. Juste avant la fin du temps additionnel, avec un très bon coup franc de Théus Avanier. Une tête de Modibo Sagnan qui est passée juste à côté du poteau d'Yvon Mbongo. Mais toujours 0-0 ici à La Mosson.
Merci les garçons, à tout à l'heure pour les deuxièmes mi-temps. On va retrouver également Wilfried Tamblier dans quelques instants pour le coup d'envoi de Toulouse Racing, 8e de finale de la Champions Cup. Le match débute à 16h. On se retrouve d'ici deux petites minutes sur la route de Paris-Roubaix à 45 km 600 de l'arrivée. Un homme en tête, cet homme, c'est celui qui était attendu, espéré, Mathieu Van Der Poel, qui possède 1 minute 36 d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Ils ne peuvent rien face au phénomène vêtu d'un maillot arc-en-ciel aujourd'hui. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
L'Intégral Sport sur RMC, il est 16h, très précisément 16h, et un gros carrefour avec plein d'événements en direct cet après-midi. Trois matchs de Ligue 1 qui vont reprendre pour les deuxièmes mi-temps. La fin de Paris-Roubaix, il reste 38 km. Et puis évidemment, l'entrée en lice de Wilfried Templier dans quelques instants. Il est même là. On va lui faire un petit coucou, Wilfried, pour. Il est là, ta-la, c'est boum boum badaboum, le voilà, c'est notre Jean-Paul Belmondo à nous. Comment ça va, mon Wilfried?
Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Ernest Vallon. C'est parti depuis quelques secondes entre le Stade Toulousain Christophe et le Racing pour ce huitième de finale. Savoir qui rejoindra l'UBB et La Rochelle en quart, soit Toulouse, soit le Racing. Coup de pied à suivre de Gaël Ficou dans le but. Ce sera trop long pour Arundel. 0-0 entre les deux équipes. Le Racing a fait un coup d'envoi directement en ballon mort. Il y a eu mêlée pour le Stade Toulousain. On espère que pour les Racingmen, ce ne sera pas comme ça tout le match. Les Racingmen privés de Le Garec et Gibert. Leur charnière, Chat au talon aussi, alors que Toulouse retrouve la charnière du Pont Ntamack.
Eh oui, la charnière qui avait fait le bonheur du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Et ils sont là tous les deux. Ils arrivent en forme, évidemment, au meilleur des moments. Tiens, à noter que sans Antoine Dupont, l'équipe de France de rugby à 7 a perdu en finale aujourd'hui du tournoi de Hong Kong, battu par les All Blacks. Mais enfin, ils sont déjà arrivés en finale. C'est pas mal, hein, Wilfried. Hein. On sent qu'ils sont montés d'un cran quand même. Hein.
Ouais, effectivement, c'est une belle performance en vue des JO.
Exactement, très bien, on va te retrouver tout à l'heure. On rappelle que l'UBB et que le Stade Rochelet, ça ravit évidemment le Rochelet que tu es, se sont qualifiés hier, le Stade Rochelet, à l'issue d'un match complètement dingue sur la pelouse des Stormers en Afrique du Sud. On aura donc trois représentants français en quart de finale la semaine prochaine. On n'a pas encore les horaires, on vous dira tout ça d'ici la fin du match. Retour ici sur Paris-Roubaix, on est à 37 km de l'arrivée et bientôt pas loin des 2 minutes d'avance pour Van Der Poel,
pas loin des 2 minutes d'avance. Et je suis en train de regarder les plus gros écarts dans l'histoire de Paris-Roubaix en faveur du vainqueur. Alors on sera loin de 1898 et des 28 minutes d'avance de Maurice Garin sur.
Il devait sacrément s'ennuyer quand même, les commentateurs, en 1898.
Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup quand même. Je suis pas sûr qu'il y avait Radio Monte Carlo à l'époque, Christophe. Mais par contre,
j'étais déjà là. Oui, si j'étais. Ouais, oui, j'étais.
Ah, avec Cyril déjà, vous étiez là. Je savais pas que c'était à ce point-là. Non, mais je regardais par contre pour remonter à. Enfin, il faut remonter à 2010 hein, et. La victoire de Fabian Cancellara avec pour dauphin Torruschoft ce jour-là pour voir un écart de 2 minutes ou plus sur Paris-Roubaix entre le vainqueur et son premier poursuivant. Et bien pour l'instant, cet écart à 36 700 km de l'arrivée, il est de 1 minute 55 en faveur de Mathieu Van Der Poel sur un groupe de 6 coureurs lancés à ses trousses, dans lequel on retrouve notamment Mads Pedersen et Stefan Kung, mais on retrouve aussi Jasper Philipsen. Cyril, on a le sentiment, et tu l'avais prédit hein, tout à l'heure hein, quand tu avais dit au-delà de 30 secondes c'est terminé, on a le sentiment que ça ne reviendra pas derrière. Comment on explique qu'il continue à grappiller du temps alors que derrière eh bien, ça s'est quand même plus ou moins organisé dans ce groupe, alors qu'on voit Thomas Pidcock qui a là aussi fait parler ses qualités de cyclocrossman
et qui a failli aller à la chute d'ailleurs, qui a failli glisser là sur une partie mouillée. Heureusement, c'est un bon cyclocrossman, il s'est bien récupéré. Alors oui, c'est logique qu'il repart, parce que quand vous regardez comment les trajectoires utilisées par Van Der Poel, il prend le temps avant chaque virage, chaque secteur pavé, de mettre exactement le bon développement. Les relances sont très bonnes, c'est-à-dire qu'il grappille des secondes un petit peu partout avec un minimum d'effort par rapport à ses adversaires. Et donc, au fil du temps, eh bien, il creuse progressivement, mais malheureusement pour ses adversaires, c'est peut-être définitif. Mais ceux-ci, ils sont quand même un petit peu armés derrière. Il y a quand même qu'un seul équipier qui est là, pas n'importe lequel. Et il ne faut pas qu'il ait de défaillance ou de chute ou de crevaison.
Même s'il a une chute ou une crevaison, Cyril, même s'il a une chute ou une crevaison, je me souviens des championnats du monde à Glasgow l'été dernier, où il avait chuté, où il avait carrément cassé voilà, sa chaussure.
Bon, alors, imaginons trois chutes et trois crevaisons. Ah oui, alors.
D'accord. Oui, c'est ça.
Non, mais sérieusement, Cyril, même une crevaison, là, en plus, il a sa voiture d'assistance. Hein, il y a 2 minutes d'écart, donc a priori.
Oui, non, il n'y a pas de souci dans l'immédiat.
Il n'y a pas péril en la demeure. Il faudrait vraiment qu'il ait une énorme défaillance et une énorme chute. Et évidemment,
on voilà, mais bon, pour l'instant, il gère, c'est comme ils ont l'habitude de faire maintenant.
Allez, hop,
il gère ses allures à chaque instant, à chaque moment. Et à aucun moment, il se met dans le rouge.
Un petit gel.
Premier essai pour le Stade Toulousain, messieurs. Ouais. Premier essai pour le Stade Toulousain. 3 pénalités de suite contre le Racing. Les Toulousains ont vent contre, donc ils n'ont pas tenté la pénalité. Ils ont été deux fois en touche. Et sur la dernière prise de balle d'Alexandre Roumat, c'est tout le pack qui s'est affalé dans l'embute à voir qui avait le ballon. Il me semble que c'est Richie Arnold, l'international australien, confirmé pour l'essai. Mais ça fait essai pour Toulouse. 5-0 avant la transformation. C'est Pato Mbaka pour l'essai, le talonneur qui est titulaire aujourd'hui, Marchand est remplaçant. Transformation en très moyenne position, quasiment quoi pour Blair Kinghorn, puisque Thomas Ramos est forfait pour ce match à venir. 5-0 pour Toulouse, 7e minute de jeu.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va faire cher. Ça va faire cher cet après-midi dans ce match entre Toulouse et le Racing. Donc dès le début de cette rencontre, avantage au Stade Toulousain. C'est reparti également sur les trois pelouses de Ligue 1, notamment du côté de Reims qui reçoit Nice sous les yeux d'Arnaud Valadon. Arnaud,
la 50e, toujours 0-0 dans cette partie. Carton jaune pour Hicham Boudaoui. Pas de changement opéré par les deux jeunes coachs à peine trentenaires, Francesco Farioli et Will Steele. On rappelle, première mi-temps dominée par le GC Nice avec un incroyable raté de Jérémy Boga qui aurait dû ouvrir le score pour les Aiglons. Mais au final, pas de but, 0-0 pour l'instant, la 50e.
Toulouse-Strasbourg, Romain Malric.
Ouais, ça a repris depuis seulement une petite minute ici au Stadium. Toujours 0-0 entre les deux équipes. À noter que il y a du vent hein, sur Toulouse. Wilfried l'a dit pour Ernest Vallon. C'est évidemment le cas pour le Stadium. C'est Toulouse qui avait le vent pour en première période. Ce sont donc les Strasbourgeois qui vont jouer avec pour la deuxième.
Très bien. Du coup, il y a des gens dans les deux stades. Il n'y a personne au centre-ville quoi, à Toulouse. Là, c'est déserté. Quoi. Tout le monde est dans les stades, j'ai bien compris. Montpellier-Lorient, oui. Julien.
0-0, 47e minute à la Mosson. Un changement à signaler à la mi-temps, à la sortie de Tamari, remplacé par Koulibaly. Légère domination lorientaise. Les Montpellierens qui ont eu une situation, et je vous confirme, la large défaite du MHR. Humilié par l'Ulster, 44-17. Ils ont pris un 33-0 en deuxième période, les Montpellierens.
C'est bien. Tout va bien pour Montpellier. C'est un peu comme Lyon. Hein. Je pense qu'ils ont d'autres chats.
C'est pas la priorité.
La compétition européenne ou la compétition, on appelle plus ça une Coupe d'Europe. D'ailleurs, je sais pas comment on l'appelle. Enfin bref, ils ont disparu de cette compétition. À tout à l'heure, les garçons. Wilfried, pas de nouvel essai. Le Stade Toulousain toujours devant. La transformation est passée ou non?
La transformation a été ratée. Parking Horn 5-0 pour Toulouse sur cet essai de Movaca, 8e minute.
Très bien. Paris Roubaix, 33 km de l'arrivée.
Il n'arrive pas à passer les deux minutes d'avance.
Oh là là.
Faut-il s'inquiéter pour
Mathieu Pofchou qui est retombé à 1 minute 58 alors que les supporters sont présents hein, sur ce secteur pavé à 32 km 800 de l'arrivée. On est sur le fameux secteur de Templeuve qui va se faire, j'allais dire, en deux temps. Oui, il va bien se faire en deux temps ce secteur de. Non, attends, oui, c'est bien ça. Il va se faire temps. Et on est à la fin donc de la deuxième partie du secteur de Templeuve, le fameux secteur du moulin de Vertin. Et Mathieu Van Der Poel qui en sort à la relance et qui peut profiter d'une partie un petit peu plus bitumée. On l'a vu s'alimenter, tu alertes hein, depuis tout à l'heure Cyril, enfin tu alertes, c'est un bien grand mot, mais tu signales pour Mathieu Van Der Poel la nécessité de s'alimenter pour ne surtout pas connaître la fringale. Il prend des gels très très régulièrement, on l'a vu au moins deux fois depuis que tout à l'heure il est sorti du groupe de tête.
Oui, il a intérêt à conserver un maximum de réserve de glycogène puisque c'est là-dessus qu'il peut continuer son effort à cette intensité-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il a vent. Alors il faut le dire aussi, il y a vent favorable. Donc le vent favorable pour un homme seul, c'est quand même plus facile. Imaginons qu'il ait un vent de face. Dans le vent de face. Dans le vent de face, il faut savoir qu'on meurt tout doucement dans le vent de face, alors qu'avec du vent favorable, vous pouvez dérouler de façon beaucoup plus harmonieuse. Et comme de toute façon, il fait tout bien ou presque bien, à part, je le répète, il prend trop de risques dans les virages. Il n'a pas besoin de prendre ces risques qui vont peut-être lui coûter cher. Il y a encore quelques instants, il est sorti d'un virage, alors que c'est pas nécessaire.
En tout cas, il a une 59 d'avance sur un groupe composé de Lorenz Pitti, de Stefan Kung, de Nils Polit, de Jasper Philipsen et surtout de Mads Pedersen qui pousse très 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 fort pour essayer de réduire l'écart. Il y parvient depuis quelques centaines de mètres désormais, mais vraiment il grignote seconde après seconde et c'est pas vraiment franc. Hein. C'est 1,57 désormais d'écart. Disons qu'il maintient plus l'écart qu'il ne le réduit réellement.
Christophe. On rappelle qu'il a raison de gérer
l'écart. Maintenant, il doit gérer l'écart. De façon à ne pas. Il ne doit pas gérer à son maximum, il ne doit pas gérer à sa limite, mais il doit gérer légèrement en dessous. Tant qu'il peut gérer en dessous et qu'en même temps l'écart ne bouge pas, il doit être absolument serein.
Alors, on rappelle le groupe info, ouais, Stéphane Kung et Lorenz Pitti pour l'équipe Groupama FDJ. On a Jasper Philipsen, on a la présence de Nils Polit et de Mads Pedersen et Lorenz Pitti qui justement est en train de rouler à l'avant de ce groupe dans la roue de l'Allemand Nils Polit, ancien deuxième de Paris-Roubaix.
Les prochains rendez-vous importants de ce Paris-Roubaix, les secteurs décisifs, on rappelle que le secteur décisif ce sera le carrefour de l'Arve hein, qui sera situé à 17 km de l'arrivée. On n'y est pas encore mais on s'en rapproche quand même hein.
On aura qu'on fait un PVL également juste avant cela et d'ici là deux secteurs 3 étoiles de Cizon à Bourguel et de Bourguel à Vannes 1 voilà ça continue les pavés, il y en aura jusqu'au bout et derrière Stéphane Kung est allé de son relais, mais vraiment c'est pas franc la réduction de l'écart là. Et ouais, et Nils Politz qui fait un signe de la tête, il n'en peut plus derrière. 2 minutes d'avance encore pour Mathieu Van Der Poel.
Très bien.
Pénalty pour Montpellier, Christophe.
Ah ben on y va, Julien. Ah, peut-être le premier but de l'après-midi, Montpellier. Je commençais à les espérer quand même.
Ouais, hein. Et Loïc Ferry, le président de Lorient, qui a tweeté au milieu de la première période. Ah, c'est donc tous les week-ends.
Ouais, la chute de Lorenz Pitti à l'entrée. Ah, excuse-moi, mon cher Julien. Vas-y, une vas-y. Chute énorme de Lorenz Pitti. Mais il va pouvoir se relever. En tout cas, ça ne réduit à 4 le nombre de poursuivants.
Allez, Julien, le pénalty.
Ouais, bon, c'est très léger là.
C'est sévère.
C'est sévère. Non, mais je pense qu'il va y avoir un appel au VAR encore une fois. En tout cas, Régis Lebris, évidemment, fou de colère que ce pénalty ait été accordé parce qu'il a dit qu'en première période, il n'y avait rien. Et que là, je pense que, encore une fois, Arnaud Nordin.
Après, il est intelligent dans sa course, mais parce qu'il vient se mettre dans la course du défenseur. Mais franchement, je regarde au niveau
des
pieds.
C'est pas Hadji qui fait faute, ça, c'est sûr. Ouais. C'est peut-être le deuxième l'orienté, mais on va voir s'il a appelé ou pas par l'avant. On rappelle le scénario, Christophe. La semaine dernière, à Brest, les Lorientais avaient estimé avoir un pénalty avec une main de Brendan Chardonnay pas accordée par le VAR, et que là en première période ils ont eu un pénalty refusé ensuite par le VAR, et que Loïc Ferry s'était plaint la semaine dernière du VAR, que là encore une fois il s'est plaint, et que c'est vrai que ce pénalty là pour le coup il est très litigieux.
Pour l'instant, il n'est pas appelé.
Non, pour l'instant il n'est pas appelé. On n'a même pas de VAR en cours sur l'écran où parfois on nous alerte qu'il y a un contrôle et qu'on l'appelle. Et le Hadji a pris un carton jaune pour cette faute, et pourtant il me semble que c'est pas lui qui fait faute en plus. Non,
mais je crois qu'il a été un peu trop virulent sur l'arbitre, il me semble.
Attention, si, appel au VAR, voilà, ça y est. Il va aller revoir la vidéo, Christophe, donc je pense, je te rappelle d'ici une petite minute.
On n'est pas prêt de le revoir.
Pour t'annuler que le pénalty, il va pas être accordé. Moi, je te refais signe s'il est validé. D'accord. Ou pas le pénalty. En tout cas, 53e minute à la Mosson, 0-0 pour le moment.
Ok, on fait un tour sur les deux autres stades de Ligue 1, notamment à Reims avec Arnaud Valadon qui est sur Reims-Nice.
Bon, ça va aller vite, hein. Pas grand chose quand même dans cette deuxième mi-temps. Christophe, la 56e, 0-0, c'est plus équilibré. Voilà, les Niçois ont un peu plus de mal à s'approcher de la cage de Yevan Diouf, mais les Raymonds ont en même temps du mal à inquiéter Martin Bulka, le gardien niçois. Entre deux concurrents à l'Europe, Sébastien. Voilà, 0-0, ça illustre bien ce qu'on voit.
Ouais, mais c'est pas mal quand même le match. Franchement, il y a des bonnes choses.
En première mi-temps, c'était mieux.
Ouais, voilà. Mais moi, je
pénalty confirmé. Pénalty confirmé, Seb, à Montpellier. Alors, par contre, je pense qu'il peut changer le carton. Parce que pour moi, c'est pas Hadji qui fait faute. Ça serait plus Mendy sur son retour.
Je crois qu'il avait pris, je te dis, sur le jaune parce qu'il était. Il était en train de se plaindre à l'arbitre. Il était arrivé un peu rapidement
d'accord.
sur lui.
Ok. Ouais. D'accord, je pensais que c'était pour la faute, parce que je pense vraiment que c'est pas lui qui fait faute et que c'est plutôt le deuxième Lorienté. Mais comme tu dis, je pense que Nordin, il joue très bien la course en allant percuter légèrement le défenseur, alors que TJ Savanier, monsieur penalty, 6 buts cette saison, 5 sur penalty, qui en est sur une série folle, qui a marqué la semaine dernière encore au Havre, monsieur penalty. Alors on va pas lui porter la poisse face à Mbogo. TJ Savanier avec la but paillade face à lui, pour permettre à Montpellier de mener 1-0 et peut-être de faire un pas, non pas définitif vers le maintien, mais un grand pas en mettant Lorient à 6 points. TJ Savanier au point de pénalty, 5 pénaltys transformés cette saison. Il s'est lancé, c'est encore une fois parfaitement tiré, exceptionnellement tiré. Mvogo est parti du bon côté, il s'est bien élancé, mais Seb, encore une fois, petit filet puissant. Les gardiens, ils ont beau bien plonger, ils sont inarrêtables, les pénaltys de TJ Savanier. Et voilà Montpellier qui mène 1-0.
Ah, c'est un expert, hein, ça. En la matière, il tremble pas, hein. C'est imparable pour le gardien.
Qui est pourtant bien parti, hein. Il s'est bien détendu, Mbogo, parce qu'on va revoir le ralenti. Vraiment, il part bien, parce qu'il sait qu'il va le mettre là. Il s'avance même et il touche le poteau. TJ Savanier, poteau intérieur, poteau rentrant. Il n'y peut rien, le portier suisse. C'est parfaitement tiré, Christophe. Et Montpellier mène 1-0, après quasiment une heure de jeu.
Très bien, un petit détour également à Toulouse avec Wilfried Templier pour le 8e de finale de Champions Cup. Pas de Champions League, de Champions Cup, hein, c'est pas pareil.
Champions Cup, c'est ça. Ouais.
Exactement.
Challenge Cup, c'est la petite, et Champions Cup, c'est la grande. Ouais. Et dernier 8e de finale des Français, donc entre Toulouse et le Racing. 5-0 toujours pour Toulouse, ça n'a pas bougé cet essai de Movaca à la 7e minute. La transformation ratée par Kinghorn, et voilà, pas trop d'occasion entre les deux équipes. Le Racing a beaucoup de mal sur ses touches notamment. Et pour l'instant, ils tiennent, les Racing mènent 5-0 pour Toulouse, 16e minute de jeu.
Très bien, il est 16h16. Vous êtes sur RMC, on était à 26 km de l'arrivée de ce Paris-Roubaix et l'écart est fait, l'écart qui continue de grandir. Tout à l'heure, il avait tendance à se réduire quelque peu. 2 minutes 10 d'avance désormais pour le grandissime favori. Il était annoncé avec une grande pancarte dans le dos, mais malgré la pancarte, eh bien, il emmène tout sur son passage. Il est impressionnant. Mathieu Van Der Poel qui, dans une demi-heure maintenant au maximum, entrera sans doute en vainqueur ici sur le Vélodrome de Roubaix pour la deuxième année consécutive. On vous fait vivre ça jusqu'à 17h avec Arnaud Souk, avec Cyril Guimard et toute l'équipe. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Foot, rugby et cyclisme au programme de l'Intégral Sport cet après-midi. C'est un magnifique dimanche après-midi que vous vivez avec nous, avec tous nos envoyés spéciaux sur tous les terrains de France. Et Benabar, Wilfried, il est en France. Il est à Toulouse. Il y a un arbitrage vidéo pour un essai, un supposé essai du Racing. C'est ça, Wilfried?
Ouais, mais l'essai est refusé. Alors, l'essai était magnifique. Il venait d'une première percée de Ficou dans les 30 mètres. On a joué dans le fermé en suivant dans le même sens avec Colissi qui a été arrêté à 1 mètre de la ligne par Pitaki. Sur le renversement, Ficou a joué un superbe de contre 1 pour Max Springs, quasiment au pied des poteaux. Mais Jack Willis, le troisième ligne anglais, a réussi à mettre son bras, aidé par un autre Toulouse, pour empêcher l'essai de Max Springs. Et l'arbitre Carl Dixon avait dans un premier temps accordé l'essai, et finalement par contre on est revenu à une pénalité en faveur du Racing qu'ils ont joué à la main. En ce moment les Racingmen, avec Wauquiez qui relève le ballon à hauteur pour Chavancy. Le Stade Toulousain donc mène toujours 5-0 avec l'essai de Movaca à la 5ème minute, mais le Racing n'a pas dit son dernier mot pour l'instant, même si là la défense de Toulouse est en train de prendre le dessus et faire reculer les Racingmen. Donc pour l'instant toujours 5-0 pour Toulouse qui vient même de récupérer le ballon, occasion manquée par le Racing.
Ok Wilfried, à tout à l'heure les temps et les scores sur les trois pelouses de Ligue 1. Reims-Nice, Arnaud Baladon.
La 65e est toujours 0-0 entre Reims et Nice, pas beaucoup d'occasions quand même hein. Dans cette deuxième mi-temps, bon, au moins on vous laisse tranquille messieurs, c'est bien.
Ah oui, ça, mais c'est bon. Vous nous foutez une paix royale, ça vous êtes trop sympa les garçons. Toulouse-Strasbourg, Romain Malric.
On aimerait qu'il débute, on aimerait qu'il débute. Ah au stade, bah oui, 0-0 après une heure de jeu.
Des occasions au moins.
Ouais, il y a quelques occasions. Et pas quoi, notamment l'attaquant strasbourgeois en début de deuxième période, qui s'est un peu trompé, qui a un peu trop ouvert son pied face à Guillaume Rest. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçu là. Le vent perturbe notamment les Toulousains en cette deuxième période. Et c'est pourtant d'habitude la période où les Toulousains en deuxième période marquent beaucoup de buts. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. 0-0 après 61 minutes de jeu.
Voilà, Julien Landry lui a eu un péno tout à l'heure pour Montpellier-Lorient.
Ouais, pénalty transformé par TJ Savagnier après appel au VAR. Le pénalty en première mi-temps a été refusé au Lorienté, accordé aux Montpellierens. Hein. Je pense que du côté de Lorient, on va encore en parler à l'issue de cette rencontre-là. Et les Montpellierens ont même failli doubler la mise. Hein. Wahbi Khazri qui était seul au deuxième poteau, pas assez tueur, le numéro 9 Montpellierens.
Ah, l'arrêt est magnifique quand même.
Bah, Mvogo revient bien, mais Khazri
il
doit pouvoir faire mieux pour assurer peut-être définitivement le succès des Montpellierens. Mais en tout cas, Montpellier a fait un grand pas avec, en mettant pour le moment Lorient à 6 points au classement. Un pas peut-être important en vue du maintien pour les hommes de Michel Derzakarian. 63 minutes à la Mosson, 1-0 pour la Payade.
Ok, 22 km de l'arrivée de ce Paris-Roubaix. On va faire un petit point sur les écarts qui continuent d'augmenter entre l'homme de tête et ses anciens compagnons d'échappée qui ne peuvent rien faire et qui ont laissé l'ouragan Van Der Poel leur souffler dans les bronches, Arnaud.
2-26, personne n'a fait mieux depuis Walter Gutfrut sur Eddy Merckx en 1969. Si on en restait un pareil écart d'un homme seul, c'est incroyable.
C'est jamais arrivé depuis 1969. Depuis,
en tout cas, un écart aussi. Important.
Voilà. Cyril était tout jeune à l'époque.
Tu t'en souviens, Cyril, de ce Paris-Roubaix 1969?
1969,
je rappelle que Van Der Poel est toujours 69, en tête à 2-28 d'avance sur le groupe Pedersen.
69, si j'y étais.
Bah alors, tu te rappelles plus où t'étais, quoi.
Bah bien sûr que je m'en rappelle, je fais 7ème.
Ah ben voilà. Bah, t'avais dû. Il y a quelques minutes. Tiens, je vais regarder combien de temps t'as fait. Tu fais 7ème à 10 minutes 39, Cyril. 10 minutes 39 de retard. 10 minutes 39 de retard sur Walter Gutfrid. 10 minutes 39.
Oui, mais il faut que je vous explique la course quand même.
Non, mais c'est... Qu'est-ce que... Dans quoi je me suis lancé?
Rappelez-vous que cette année-là. Cette année-là, l'échappée, elle est partie.
Ah, il a 2 minutes 30 d'avance.
L'échappée, elle est partie au départ. L'échappée, elle est partie au bout de 50 bornes.
D'accord.
Mais l'échappée qui va au bout, avec Merckx, Gottfried, etc. Ouais. Et vous savez qui c'est qui lance l'échappée? José Samin et moi.
Ah, voilà. On est étonné que tu sois pas dans le coup, Cyril.
T'en as fait combien des
paris? Bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a marché.
T'en as fait combien des paris Roubaix, Cyril?
Mais c'est la réalité.
Ouais. Mmh. Combien tu en as fait des paris Roubaix?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, hein. C'était pas ton truc. Hein.
Ah, j'ai fait le premier, mon premier en 68. Et là, j'ai été le premier abandon au centième kilomètre.
Ah, c'est bien ça. Mais bon, c'est normal. Quand on débute dans le métier, c'est normal.
Non, je sortais du Tour de Belgique et j'étais malade. Voilà.
Que tu as remporté quand même avec, avec un certain Bernardino, non?
Toi, et Marc Madiot.
Et avec Marc Madiot, évidemment.
Et avec Marc Madiot, on a fait un doublé.
Ouais.
Marc Madiot, deuxième Bruno Wojtinek, troisième Kelly.
Et ben voilà, ça c'était les grandes années du cyclisme français depuis.
C'est là où c'était intéressant le vélo.
Ah ben oui, quand on a des Français qui gagnent, c'est sûr que c'est mieux. Là, les Français, ils sont aux abonnés absents de. Alors, mis à part Hugo Page, mais les autres, c'est une catastrophe.
Alors, force est de constater quand même que Christophe Laporte n'a pas eu de chance parce qu'il a crevé dans le premier secteur pavé de Trois-Villes à Hinchy assez rapidement, donc il n'a pas pu se mêler à la lutte. Florence Sénéchal.
Oui, mais, Arnaud, il avait pas les moyens de se mêler.
Je suis d'accord. Mais bon, voilà, c'est vrai que on aurait pu imaginer que dans une grande année, dans un grand printemps, Christophe Laporte puisse se mêler à la lutte.
Non, mais là, je suis d'accord.
Mais c'est vrai que
cette année.
Non, pas cette année. Et d'habitude, on a quand même toujours un Adrien Petit ou un Florian Sénéchal ou un coureur capable de se classer dans le top 10. Là, ils vont être vraiment très très loin, les Français. C'est vrai que cette année.
Oui, mais Sénéchal, rappelez-vous qu'il vient de se casser la figure avec Julien Alaphilippe, d'ailleurs. Et fracture de la clavicule, en fait, il est en reprise.
Ouais. Bon, en fait, le seul sang français.
Mais bon, ceci dit, on est à notre place. Hein.
Ouais. Il y a quand même du sang français. Là. La moitié du futur vainqueur de Paris-Roubaix est quand même française. Hein,
tu m'as dit, il y a quelques. Les grandes occasions Montpellier, messieurs, le poteau qui vient sauver l'Orienté.
Ah oui, pardon, Julien.
Je disais un poteau qui vient sauver Mbogo. Cette frappe de Wahbi Khazri enroulée. Mbogo pensait qu'elle allait sortir. Elle est venue taper son poteau. Et derrière, Enzo Chato qui n'arrive pas à cadrer. Qui aurait pu permettre au Montpellier d'asseoir cette victoire de 0. Toujours 1-0 pour Montpellier. 67e minute de jeu.
Très bien, 18 km 800 de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel qui entre dans un nouveau secteur pavé.
Il est donc enfin en Pével actuellement, il va en sortir et ça sera le secteur du carrefour de l'Arbre.
Il y a beaucoup de monde évidemment, on est dans les derniers secteurs d'importance de ce Paris-Roubaix, celui du pavé de Campin
enfin en Pével
et puis le carrefour de l'Arbre qui suivra dans quelques instants. La victoire semble être du tout cuit désormais pour Mathieu Van Der Poel avec 2 minutes 44 d'avance dans à 18 km 500 de l'arrivée. Wilfried Templier, que se passe-t-il sur ce huitième de finale entre Toulouse et le Racing?
Ça s'envoie terrible. Il y a une bataille là dans les rucks et autour des rucks qui a fait une victime d'ailleurs, c'est Pierre-Louis Barassi, le 3/4 du Stade Toulousain, touché au côte, qui va être remplacé par Paul Coste. Mais ils ont gagné ce bras de fer les Toulousains parce que les Racingmen ont une période de domination qu'ils n'ont pas concrétisée. Toulouse mène toujours 5-0 depuis la 7e minute avec l'essai de Mobaka. On joue la 25e et là, parce qu'il sait tout faire, qui sait qui a fait le contest dans le ruck, je te donne dans le mille, mon cher Christophe, c'est Antoine Dupont. C'est Antoine Dupont qui est venu sur un ruck, qui a mis les bras et voilà, il sait même faire ça, même si là Toulouse n'a pas récupéré la touche qui sont venus chercher dans les 30 mètres. Il faut signaler que le vent fort dont on parle à Toulouse, il est en faveur du Racing en première période. Alors ce serait bien pour eux qu'ils fassent la différence parce qu'après ils vont jouer vent contre. Mais pour l'instant c'est Toulouse qui est devant 5-0, 26e minute.
Et on rappelle que cette compétition européano-africaine est l'objectif annoncé du Stade Toulousain cette saison. Ils veulent retrouver la gagne.
Ils l'ont pas gagné depuis 2021 et le président Lacroix l'avait dit en début de saison. Ils l'ont ciblé effectivement. Tu parlais des affiches pour le week-end prochain. Voilà, selon ce qu'on sait, c'est que UBB Harlequin se jouerait samedi à 16h et le match Leinster-La Rochelle samedi à 18h30. Voilà, et si Toulouse gagne ou si le Racing gagne, et bien ce sera dimanche à 16h contre Exeter, soit à domicile pour Toulouse, soit à l'extérieur pour le Racing, si le Racing passait. Voilà.
Très bien, eh ben, on suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt et on sera avec toi et avec nos spécialistes rugby tout au long du week-end prochain. Le foot, il se passe des choses. Seb, dis-nous s'il se passe des trucs ou s'ils font exprès de
non, franchement, pas grand chose. Et même c'est vrai que le match Reims-Nice, autant la première mi-temps c'était intéressant du côté niçois, là
Là, je t'ai pas menti.
Ouais, non, c'est vrai. Deuxième mi-temps, pas. Même avec les entrants, voilà, les Niçois, ils sont un peu plus bas. Donc, je pense même qu'ils se contenteraient presque de prendre un point.
Ah ouais,
à Reims.
C'est vrai qu'ils sont tellement.
Ils sont pas bien en ce moment.
En réussite en ce moment que. un point, ce serait magnifique.
Attention, l'occasion peut-être pour les Rémois d'y acquitter. L'arrêt de Boulka, le ballon qui reste dans la surface avec Dante. Tony Beau qui va finalement se dégager. Toujours 0-0. Et il reste 18 minutes à jouer entre Reims et Nice.
Très bien. Le temps de score sur les autres pelouses. Toulouse, Strasbourg, Romain, Amalric.
Toujours 0-0, 69e minute de jeu. La dernière occasion a été strasbourgeoise, mais toujours pas de but.
Et puis Montpellier-Lorient, Julien, donc.
70 minutes à la Mosson, 1-0 pour les Montpellierains. Lorient sauvé par son poteau et les Montpellier sauvés par sa barre. À l'instant, encore 20 minutes à jouer, 1-0 pour les Montpellier.
Arnaud, un point sur la course.
Oui, Mathieu Van Der Poel qui a 2 minutes 47 secondes d'avance sur le groupe Pedersen et qui est surtout dans le 3ème et dernier secteur 5 étoiles du jour.
Ah, on y
à
est.
À 16 km 700 de l'arrivée, on est bel et bien dans le carrefour de l'arbre. 2100 mètres de bonheur pavé avec ce virage qui sera sur la gauche en secteur en montée. Il ne peut plus rien arriver une fois que Mathieu Van Der Poel sera sorti de ce secteur.
Si, vous êtes.
De 48, Cyril.
Il a déjà failli se mettre sur le toit au pied de l'arbre.
48, Cyril. De 48.
Il prend beaucoup. Oui, mais s'il tombe, il n'est pas obligé de repartir. Hein.
De 48.
Mais je comprends pas pourquoi il prend. Il prend de tels risques alors que seule la chute peut l'empêcher de l'emporter.
Ouais, parce que c'est vrai qu'avec 2040.
Sur le premier virage, sur les deux premiers virages au début de ce secteur pavé de l'arbre, et pourquoi il vire aussi vite quoi?
Il est sur un nuage, on le voit forcé. On va faire la fin du carrefour de l'arbre. On fera la pub juste après. Je dis ça pour Paris. Parce qu'évidemment, c'est le dernier secteur où il peut se passer des choses, où il peut arriver un problème à Mathieu Van Der Poel. Pour l'instant, il semble dominer son sujet quand même, Arnaud.
Hein. Ah, il a viré à gauche alors qu'il y a énormément de monde au bord de la route. On voit des drapeaux de toutes les nationalités, mais c'est bel et bien le rouge, blanc, bleu vertical des Pays-Bas qui flotte aujourd'hui sur Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel de Mathieu Van Der Poel. Dans la montée du carrefour de l'arbre, il va arriver tout au bout au niveau du restaurant dans 700 mètres. Désormais il tournera sur la droite et après ce sera quasiment tapis rouge avec trois derniers secteurs, mais vraiment trois derniers secteurs très faciles pour prendre la direction de Roubaix. Mathieu Van Der Poel qui vraiment, tu le disais Christophe, donne cette impression de puissance. Il ne laisse rien au hasard et il ne laisse rien surtout à la concurrence. Il va quasiment avoir 3 minutes d'avance. C'est vraiment impressionnant.
Voilà, il est en train de réaliser l'un des plus grands exploits de Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, avec cette échappée à 60 km du but. On rappelle que André Ischmid avait fait la même chose, c'était en 1994. Les 400 derniers mètres de ce carrefour de l'arbre, le restaurant est là.
On le voit
là. Il peut peut-être s'arrêter, boire un coup et repartir.
Oui, hein. Alors c'est étoilé, hein, donc c'est peut-être moins fun qu'à l'époque où Cyril Guimard courait Paris-Roubaix, mais je suis pas sûr. Oui, remarque, tu me diras, il a le temps de boire un café. Franchement, bah oui, faudrait le faire avec 2,56 ans.
Ce serait énorme.
Il va sortir quand même du carrefour de l'arbre. Cyril, j'aimerais bien que tu déclenches ton chronomètre une fois que Mathieu Van Der Poel sera sorti du carrefour de l'arbre.
2,57.
Oui, non, mais maintenant, à la sortie du carrefour de l'arbre, Mathieu Van Der Poel en sort à l'instant. S'il te plaît, Cyril, déclenche ton chronomètre et on verra combien de temps passe.
Alors, je peux déjà te dire 2,57 à l'entrée.
Oui, mais justement à la sortie, moi je veux.
Ah ouais, parce qu'il a vraiment appuyé sur les pédales pour essayer de montrer encore un peu plus sa
domination. Bon, mais je vais te faire plaisir, je le fais.
C'est trop tard, là, ça fait 10 secondes.
Il s'est pas arrêté, par contre.
Bon, allez, on revient dans un instant. On aura le verdict du chrono de Cyril, qui est important, évidemment. 16h33, vous êtes sur RMC. On revient dans un instant pour le final de ce Paris-Roubaix 2024.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Le verdict du chrono de Cyril Guimard quand même, parce que ça c'est quand même l'enjeu principal de cette fin de Paris-Roubaix. Alors Cyril, à la sortie du carrefour, il était à combien d'avance notre ami?
Ah ben ils sont
Mathieu.
Pas encore passés hein.
Ben là ils vont y passer. Ton chrono est à combien Cyril?
J'ai essayé de le feinter, ça n'a pas marché.
Ah là je suis déjà de 20 et quelques.
Ah oui d'accord, oui, tu l'as déclenché trop tard alors ton chrono. 2,56, ça c'est l'écart instantané entre Van Der Poel et le groupe Pedersen à 13 km de l'arrivée.
Voilà, ils en sortent immédiatement. Donc on est à combien? Non, pas 2,56.
Oui, 2,58.
Ouais. Allez. Très bien.
J'ai vu un énorme éclair, attention à l'orage.
Ah, l'orage qui menace. va-t-il foudroyer notre ami champion du monde? Cyril, il y a une légende quand même dans le vélo qui veut qu'il y ait une sorte de malédiction qui tourne autour de la tête d'un champion du monde. Ça a été le cas pendant quelques décennies sur quelques-uns des champions du monde. Ça n'a pas l'air d'être le cas concernant Mathieu Van Der Poel.
Pour l'instant, la course n'est pas...
Ah ouais.
Oui, mais la course n'est pas terminée, la saison non plus. La malédiction du maillot de champion du monde. Alors, l'écart exact, il est de 2 minutes 59 secondes 41 centièmes.
Ah, merci. Ah, bien. Tu vois, il est dans le coup.
Il est dans le coup. 3 minutes, hein.
Non, il lui manque quelques petites secondes pour faire 3 minutes.
Bah, il lui manque 6 dixièmes, hein.
Derrière, il y a qui, alors, Arnaud?
Alors, nous avons un groupe avec Jesper Philipsen, avec Mads Pedersen et avec Nils Polite et Philipsen qui est en train d'accélérer. Ils vont nous faire le doublé comme l'an passé. Stefan Kung, c'est un peu dur pour Stefan Kung dans le secteur de Gruson. Ouais, tu lâches sur
la deuxième essai toulousain signé Mathis Lebel. Qu'il est beau cet essai, c'est parti d'une percée de l'incontournable Pitaraki, le 3 quarts centre. Peut-être pas celui dont on parle le plus, mais le plus précieux peut-être dans cette ligne de 3 quarts sur les extérieurs. Il a retrouvé Mali à l'intérieur, c'est venu près de la ligne des 5 mètres. Et derrière, Antoine Dupont a vu que sur la droite, complètement de l'autre côté, eh bien tout était libéré pour Malia qui a refixé pour Lebel. Et la défense du Racing a été débordée. Ça fait 10-0 pour Toulouse à la 35e minute. Et voilà, les mains toulousaines, ils ont gagné ces dernières minutes sur la défense. Toulouse est là sur l'accélération de leur 3 quarts. Ça fait mal au Racing avant la mi-temps. À 5 grosses minutes de la mi-temps, Toulouse mène 10-0 avant la transformation de King Horn.
Le temps, le score sur les pelouses de Ligue 1. Reims, Nice, Arnaud Valadon.
9 minutes avant la fin de cette partie, 0-0.
Toulouse-Strasbourg, Romain Amalric.
13 minutes avant la fin, on joue à 77e, donc toujours 0-0 entre Toulouse et Strasbourg.
Les gars, faudrait faire un truc quand même. Montpellier-Lorient, Julien Landry.
12 minutes encore à jouer à la Mosson, 1-0 pour les Montpellierains, ça va gagner sur pénalty.
Bon, Seb, il y a un match de première ligue, peut-être qu'il y aura plus de buts, Sébastien, non?
Ouais, puis un match qui compte en plus. Notamment pour Liverpool, ouais, parce que bon, ils sont fait passer devant, donc.
Tu veux dire que les trois matchs qu'on suit là ne comptent pas?
Non, mais non, j'ai pas dit ça. J'ai un match important et j'espère qu'il y aura des buts, mais.
Voilà. Et mais, quand il y a un match important, on met qui? On met Johan Bredov, évidemment. Voilà. Pour Manchester United pour Liverpool.
Pour l'instant, Johan Bredov, en plus, il est pas mal au Paris. C'est rare de sa part qu'il soit bon.
Merci.
Et là, il fait 0-0. Il avait annoncé le 0-0 entre Reims et Nice. Et pour l'instant, c'est son premier Paris réussi.
Je suis énorme. Salut Christophe, salut Seb, salut à tous. C'est parti depuis 9 minutes entre Manchester United et Liverpool dans ce Derby of England, comme on l'appelle. Et tu le disais, c'est un match très important pour Liverpool qui a vu Arsenal passer devant hier. Arsenal qui l'a emporté. Manchester City aussi a gagné, donc pour l'instant Liverpool a un point de retard sur Arsenal et est à égalité de points avec City. Il faut absolument une victoire pour Liverpool parce que la différence de but est favorable aux Gunners. Une victoire pour repasser devant 0-0 après 9 minutes entre Manchester United et Liverpool.
Très bien, à tout à l'heure les garçons. Et évidemment, s'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à nous couper. Mais là, on est dans le final de Paris-Roubaix.
Alors,
quand même,
tu parlais, Christophe, de la malédiction du maillot de champion du monde. Écoute, c'est quand même rare de voir un champion du monde s'imposer sur un monument. C'est-à-dire que sur au 21e siècle, ça n'est arrivé qu'à 6 reprises, dont Mathieu Van Der Poel la semaine dernière sur le Tour des Flandres. Et c'est arrivé seulement à 8 reprises sur les 50 dernières années. C'est quand même rarissime. Et là, Mathieu Van Der Poel va accomplir cet exploit.
Je pense que Merck, ça lui en sert quelques-uns. Non,
c'est possible. Alors, j'ai malheureusement pas accès détails, à des statistiques à plus de 50 ans. Mais... 40 ans, pardon, excuse-moi, je te dis. Attends, oui, 40 ans, excuse-moi, parce que je te dis 50, mais non, j'avais mal compté. Depuis 1984, seulement 8 monuments.
Tout à l'heure, t'avais les stats de Cyril en 69.
Oui, mais je peux pas tout faire. Alors, retiens juste, si tu le veux bien, que seul Bounen, Bettini, Sagan à deux reprises, Evenepoel et Van Der Poel ont réussi à s'imposer sur un monument au 21e siècle avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde.
Ouais, et ben
c'est quelque chose.
C'est un nouvel exploit pour ce garçon qui va entrer un peu plus dans la légende. Ce matin, on se posait la question dans les grandes gueules du sport de savoir si Mathieu Van Der Poel pouvait devenir une légende de ce sport sans pouvoir remporter le Tour de France. Alors il y avait d'un côté les tenants du non qui sont des gens du grand public en quelque sorte. C'était Marie et Fred Veil qui sont au fait des choses du cyclisme, mais qui voient effectivement le Tour de France comme la priorité, comme la plus grande course du monde. monde. Et puis de l'autre côté, il y avait Jérôme Pinault et moi qui n'étions pas d'accord. Moi, je pense qu'il est déjà dans la légende, Cyril. Même si tu gagnes pas le Tour de France, t'es déjà dans la légende quand tu remportes toutes ces courses. On rappelle également toutes ses qualités en cyclocross. On rappelle qu'il sera également au départ des Jeux Olympiques l'été prochain en VTT. Ce garçon, c'est une légende vivante. Ça y est. Cyril.
Oui, il y en a une autre légende vivante parce qu'elle vit toujours, elle a 90 ans.
Rick Van Looy.
Et qui n'a pas gagné le Tour de France, c'est Rick Van Looy.
Ouais.
Oui.
Et Rick Van Looy, c'est un palmarès absolument extraordinaire. Champion du monde sur route, Paris-Roubaix. Il a gagné, je crois, à part Liège-Bastogne-Liège, il a tout gagné.
Mais je pense que c'est plus le recul qui nous dira si c'est une légende. C'est vrai que vu de l'intérieur du vélo, on a tendance à dire, moi j'aurais tendance à dire, c'est une légende, évidemment.
Je suis d'accord avec toi, c'est une légende. Mais oui, en action, mais en activité.
En activité. Donc peut-être qu'on s'en rend un petit peu moins compte. Ouais. Je pense que dans quelques années.
Alors quel sera
Troisième essai pour Toulouse. Petit en avant, sifflé parce que c'était beau. Hein. La remise à tamac pour Malia qui sert Kinghorn sur le côté. C'était magnifique. Mais Monsieur Dixon a vu un petit en avant. Et donc, 39e minute, Kinghorn avait loupé la transformation du deuxième essai. Ça fait toujours 10-0 pour Toulouse. Mais vent contre pour les Toulousains, ce sera important. Vent pour en deuxième mi-temps pour eux. Il reste une minute à jouer, 10-0 pour Toulouse.
Très bien, on continue notre petit débat sur les légendes. Quel sera celui qui laissera la plus grande trace et qui sera le plus légendaire entre deux monstres qui sont des coureurs actuels, c'est-à-dire Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar? Parce que Tadej Pogacar, lui, a déjà remporté le Tour de France et lui aussi a remporté des grandes classiques.
Et écoute,
ce matin, on posait la question à Bernard Hinault qui nous disait celui qui me ressemble le plus aujourd'hui, c'est Pogacar.
Je pense, alors moi en tout cas, si, sans parler de la ressemblance avec Bernard Hinault, je pense que Pogacar, effectivement, laissera une plus grosse trace.
Cyril, t'es d'accord aussi avec Arnaud? Ça ferait la deuxième fois
dans les médias, dans
la.
Non, mais dans la mesure où Pogacar il gagne aussi des grands monuments, il n'en a pas gagné autant que Mathieu. Mathieu ne gagnera pas le Tour de France, je ne pense pas. Voire même un Tour d'Italie ou un Tour d'Espagne. Et Pogacar à ce niveau-là, effectivement, a une corde de plus à son arc.
Ouais. Ouf, il a pris des risques.
Comme l'an passé, il a fait que l'an passé sur ce secteur pavé. Là, en essayant d'aller prendre la voie lisse sur le côté, il y a des plots jaunes et noirs placés. La même image que l'an passé pour Mathieu.
Alors, tu donnes
10-0.
D'accord, 10-0 pour
le Stade Toulousain. Deux essais, Movaca Lebel.
Très bien, tout à l'heure Wilfried, juste un petit mot. Donc Van Der Poel va réaliser le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. Mm-hmm. Et il y en a un autre qui va peut-être réaliser un autre doublé. En tous les cas, il est le grand favori. Ce serait Tour d'Italie, Tour de France quand même. Hein.
Ah oui, tu parles toujours entre Van Der Poel et Pogacar. Ah oui, bah alors ça serait.
Ça, ce serait énorme parce que c'est pas arrivé depuis des années. Hein.
Depuis 1998. Alors que le dernier doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, c'est Cancellara. Et je vais vérifier l'année d'ailleurs.
C'est
en 2010, je crois.
Ouais, ouais. Très bien, 6 km 400 de l'arrivée de ce Paris-Roubaix. Et donc, notre ami Mathieu Van Der Poel qui va entrer encore un peu plus dans la légende. On vient d'en débattre. Il possède 2 minutes 50 d'avance sur le groupe Pedersen. Il y a trois hommes dans ce petit groupe, dont Jasper Philipsen, coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Et puis le troisième homme, c'est Nils Polite, je crois.
Hein. C'est Nils Polite, absolument.
Et les autres sont un peu plus loin, avec Stefan Kung notamment, le coureur de la formation Groupama FDJ. On sait que Marc le suit dans la voiture Groupama FDJ. C'est un super coureur, franchement, un garçon. En plus, il a
la tête bien faite
sur le vélo. Il lui manque un tout petit cran.
Il lui manque un truc. Je pense que il y a quelques années, j'aurais eu tendance à te dire, je sais pas s'il n'a pas laissé passer sa chance, en fait.
Ouais. Non,
voilà, parce que c'est un excellent coureur, mais j'ai l'impression qu'il plafonne, tout simplement. J'adore ce coureur.
Ouais,
vraiment, c'est quelqu'un de très sympathique, de toujours très posé, qui a la tête bien faite. C'est très agréable de parler avec lui. C'est un immense champion, mais malheureusement pour lui, je pense qu'il lui manque un tout petit cran pour faire partie des top champions.
Et de ceux qui sont capables de gagner un monument. Cyril, tu es d'accord là aussi, encore une fois, avec Arnaud?
Oui, c'est dommage. Je vais toujours être d'accord avec Arnaud.
Ah ouais, non, mais ça, c'est pas
dommage.
Possible.
C'est
pas
dommage.
La promesse, normalement. Hein. Normalement, vous devez vous mettre sur la gueule. C'est comme ça qu'on va
Débat. Oui, il manque un petit quelque chose. Il est juste derrière les trois ou quatre meilleurs mondiaux. Et puis, comme souvent d'ailleurs contre la montre, il va le nombre de fois où il est battu d'une seconde, deux secondes ou trois secondes. Ouais, ouais. Il manque le petit truc qui fait qu'il aurait un palmarès absolument extraordinaire. Mais effectivement, c'est un très très beau coureur.
Magnifique coureur qui va terminer un peu plus loin. On approche de l'arrivée, on est à moins de 5 km de l'arrivée et la meilleure moyenne horaire sur le Paris-Roubaix.
47 km 800 accomplis en moyenne à chaque heure de ce Paris-Roubaix. On court depuis plus de 5 heures désormais, 5h19 et 31 secondes pour être précis. On a vu à l'instant l'image, le check, les deux points collés de Mathieu Van Der Poel avec son directeur sportif Christophe Rudolph dans la voiture. Et voilà le signe que à 4 km 500 de l'arrivée avec 2,46 d'avance sur le trio Pedersen, Polit, Philipsen, c'est terminé, on le savait depuis un petit moment, mais ça y est, on peut enfin respirer du côté de Mathieu Van Der Poel. On a compris que le taf était accompli.
Voilà, et a priori, alors il va y avoir sprint évidemment pour la deuxième place, parce qu'on a quand même deux
points de vitesse.
Il n'y aura pas photo.
Il
n'y aura pas photo.
Il y en a un qui a bossé comme un âne et l'autre.
Attention, c'est un sprint au bout de 250 bornes.
Oui, mais avec Pedersen qui a beaucoup travaillé et Philipsen qui est resté dans les roues quand même.
Polit est cuit.
Oui, Polit est cuit depuis un petit moment.
Vous savez que dans 4 km 300, Van Der Poel va, sauf accident, faut toujours le dire, va remporter donc Paris-Roubaix. Et en fait, la même équipe aura remporté les trois grands monuments depuis le début de ce moment.
Eh oui, tout simplement énorme cette équipe Alpecin. On rappelle que Milan-San Remo, c'est Jasper Philipsen qui l'a emporté grâce à l'énorme travail de son équipier de luxe d'un jour, Mathieu Van Der Poel, qui a réussi à ramener le groupe dans lequel se trouvait Philipsen derrière Pogacar dans la descente du Poggio. On rappelle que derrière, dans le Tour des Flandres de la semaine dernière, c'est Mathieu Van Der Poel qui a réalisé
45 km de
l'arrivée. Même numéro qu'aujourd'hui, pareil, c'est quasiment copié-collé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc Mathieu qui va remporter sixième monument. Dans quelques instants maintenant, 3 km 500, une longue ligne droite. Il va ensuite tourner à droite, mettre la flèche à droite, entrer dans le vélodrome. Très copieusement garni cet après-midi pour encourager, pour acclamer le champion franco-néerlandais Mathieu Van Der Poel, vêtu de son maillot arc-en-ciel. T'aimes pas que j'en chante?
Ah, c'est pas, j'aime pas, ça me fait rire. J'adore. J'adore quand tu t'attribues.
Je disais tout à l'heure qu'il a la nationalité française.
Oui. Mais bon, il court sous le.
Ouais, mais c'est pas grave.
Non, d'accord. Ok.
La nationalité, c'est plus important.
Mais oui. Donc il a les deux passeports. Ok. Bon, allez, on va dire victoire française alors. Ça fait 2 ans qu'on gagne.
Demi-victoire.
Ah. En fait, sur les 2 années, on a une victoire française.
Ah ben voilà, exactement. On devrait faire comme ça. Une année, il court pour les Hollande. L'année d'après, il court pour l'équipe de France.
Allez, très bien. On fait
et
ça.
Et les drapeaux sont. C'est la même couleur des deux drapeaux.
Mais oui, on a juste à l'inverser un peu, le mettre à la verticale et puis c'est bon. 2 km 600 de l'arrivée, Arnaud, vas-y.
2 km 600,
fais-toi plaisir, comme on dit.
De l'arrivée dans les rues de Roubaix, c'est du tout droit jusqu'au dernier secteur, le secteur une étoile. Charles Krupland, du nom d'un vainqueur, c'était il y a bien longtemps, au début du 20e siècle. Et Mathieu Van Der Poel, une fois qu'il aura accompli ce secteur, qui est une sorte de pavé royal, de pavé tapis rouge, pourra tourner vers le vélodrome. Il y aura le stab, le vélodrome couvert, et il y aura surtout le vélodrome. Et après, ça fait 2-0 pour Montpellier. Arnaud, je te coupe pas longtemps. Caramo assure la victoire de la paillade.
Et ben voilà, enfin un mec qui a des buts dans son match. C'est pas le cas de nos amis Arnaud Valadon et Romain Amalric. Toujours 0-0 entre Reims et Nice et entre Toulouse et Strasbourg. On viendra vous voir juste après l'arrivée, alors que Mathieu Van Der Poel est en train de cajoler son vélo. Il lui dit bravo, belle monture, mon gars.
C'est comme si je te tapais sur l'épaule, Christophe. Voilà, t'imagines deux gars se féliciter en se tapant sur l'épaule, mais lui son gars c'est le vélo et il lui tape.
C'est son gars sûr, ouais.
Voilà, c'est son gars
sûr. Il doit avoir un très bon contrat chez Canon quand même.
Oui, effectivement.
Est-ce qu'il va refaire la même chose ici sur le vélodrome?
On va bien voir, mais il va nous en réserver une.
Il va nous en réserver une.
Avec 2,52 d'avance.
À mon avis, il doit être actionnaire.
Il n'y a pas le choix et c'est le dernier secteur pavé pour Mathieu Van Der Poel à 1,5 km moment de l'arrivée, je vous le disais, c'est le fameux secteur espace Charles Krupland, 300 mètres de longueur. Mais quand on voit les pavés qui ont...
Il doit avoir l'impression d'être sur la moquette de chez lui.
Oui, la moquette de chez toi même, Christophe. Je suis sûr qu'elle est toute moelleuse, toute douce. On sort de ce secteur pavé, on tourne à droite pour Mathieu Van Der Poel. On va rentrer dans la zone du Vélodrome et dans quelques instants pour Mathieu Van Der Poel, on va passer sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Elle est où cette flamme rouge? Elle est tout au bout de la courbe à gauche avec son maillot de champion du monde. Voilà qui va être fait pour Mathieu Van Der Poel, la flamme rouge.
La flamme rouge.
Et l'entrée sur le Vélodrome pour Mathieu Van Der Poel qui donne l'hymne de la tête comme pour dire non, 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 mais c'est bien oui, oui, oui. Aujourd'hui pour Mathieu Van Der Poel, c'est la première fois pour lui en plus qui pénètre sur ce Vélodrome. André Pétrieux tout seul, puisque l'an passé il était accompagné de Jasper Philipsen. Et bien cette fois-ci c'est le triomphe en solo, c'est le triomphe du champion, c'est le triomphe du virtuose. L'enfer c'était pas pour lui aujourd'hui, c'était pas pour Mathieu Van Der Poel, c'était pour les autres. Le paradis pour Mathieu Van Der Poel, le paradis pour le champion du monde qui va rentrer un petit peu plus dans la légende aujourd'hui. Y a-t-il vraiment débat pour Mathieu Van Der Poel? Fait-il partie de la légende? Je crois que oui. Je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire, le premier champion du monde a réalisé un tel doublé, et un doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix inédit depuis 2013. Il écrit chaque jour un peu plus la légende du vélo. Mathieu Van Der Poel qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il ne soulèvera pas son vélo cette fois-ci, les deux bras levés, comme celui qui domine le vélo et les classiques de la tête et des épaules. Le sixième monument de Mathieu Van Der Poel, tout simplement le meilleur coureur de classique de notre époque.
Voilà Mathieu Van Der Poel, énorme, acclamé par le public ici sur le Vélodrome Jean Stablinski, et qui va poser son vélo. Il est attendu là-bas par les caméras du direct et par ses très proches. Il descend de son vélo. Est-ce qu'il a l'air... Il y a toujours sa fiancée qui est là quand même. Hein. Elle est toujours bien placée pour l'accueillir.
C'est normal.
Très très fort. Il va donc lui faire un petit bisou. Il a l'air assez frais quand même.
Hein, Il a l'air assez frais, Mathieu Van Der Poel. Le grand sourire, il a vraiment... Voilà, survoler les pavés aujourd'hui, il y a rien à dire, mais quand on a les qualités de cyclo-crossman que a Mathieu Van Der Poel, voilà, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est normal, creuser un tel écart, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tel écart. Là, les hommes, les poursuivants, Philipsen, Pedersen et Nils Polit qui rentrent à peine sur le dernier secteur pavé de leur côté après 5h26 de course.
Voilà, l'écart, on l'a dit qu'il va dépasser les 3 minutes, c'est ça?
Peut-être pas les 3 minutes, non, parce que je pense que...
Il a un peu ralenti
ralenti, ouais. À moins que ça se... Bon, voilà, forcément, ça va un petit peu jouer pour le sprint de la deuxième place, c'est jamais inattendu. Intéressant quand même, hein. Une deuxième place à prendre sur Paris-Roubaix. On va le voir ce sprint. Et attention, parce que Stéphane Kung pourrait profiter d'une observation. Et il est allé à quoi, 10 secondes, je pense, Christophe, hein, derrière le trio Pedersen, Philipsen, Nils Polit.
Alors, qui va terminer deuxième, Cyril? Tu mettrais qui? Tu mettrais tes billes sur qui? Philipsen, évidemment.
Ah ben, je pense que je mettrais quelque chose sur celui qui a déjà fini deuxième l'an dernier.
Exactement, qui est considéré comme le meilleur sprinteur de la planète. Il l'avait montré l'an dernier sur les routes du Tour de France, et il l'a confirmé tout au long de ce début de saison. Vainqueur de Milan-San Remo, et qui va entrer à l'instant même, qui entre à l'instant même sur le Vélodrome, Jean Stablinski.
Et avec Mats Pedersen, donc, qui lead ce groupe devant Jasper Philipsen et Nils Polit. Stéphane Kung qui rentre à son tour. Il a une centaine de mètres de retard. Stéphane Kung, il va avoir le mérite de pouvoir les observer. Si ça... justement s'observe entre Philipsen et Pedersen, pourquoi pas pour Stéphane Kung essayer d'aller chercher la deuxième place. Mais on a quand même bien l'impression que ça sera compliqué, puisque Mats Pedersen et Jasper Philipsen, s'ils ne s'observent pas, continuent justement à rouler sur ce Vélodrome. André Pétrieux et Stéphane Kung qui peinent malgré tout à réduire l'écart. Il a encore une cinquantaine de mètres de retard, Stéphane Kung, mais il y croit. Ça va être compliqué pour Stéphane Kung. Le sprint entre Philipsen et Jasper Philipsen et l'attaque de Nils Polit, effectivement, qui va essayer de prendre l'intérieur. Il est coincé, Philipsen, pour le coup. Soit il parviendra à déborder sur la droite, et Nils Polit, déjà deuxième de Paris-Roubaix en 2018, mais non, il va se faire déborder par Philipsen. Et comme l'an passé, Jasper Philipsen qui prend la deuxième place, Mats Pedersen troisième, Nils Polit quatrième, et à l'instant Stéphane Kung cinquième. 5e et ça va se jouer entre Laurens Pitti et Gianni Vermeersch, la 6e place.
Très bien, victoire donc de Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Jasper Philipsen. C'est le copier-coller de l'an dernier, les deux hommes qui dominent la saison des monuments avec trois victoires pour cette équipe alpécine. On le rappelle, qui n'a pas les mêmes moyens financiers que la formation Visma, que la formation UAE, et qui a pourtant, Cyril, des coureurs d'exception avec Philipsen et évidemment Van Der Poel.
Oui, ces grandes épreuves que sont les grands monuments, eh bien, font émerger bien sûr les coureurs qui ont le plus de talent, l'intelligence de la course, la capacité à être au top niveau le jour J. Oui, effectivement, on a une chance extraordinaire en ce moment, pas seulement sur les classiques. On parlait de Pogacar tout à l'heure. On a aujourd'hui une dizaine de coureurs qui sont véritablement au-dessus de tout ce que l'on pouvait imaginer.
Très bien, merci Cyril, merci Arnaud, vous revenez évidemment tout à l'heure pour débriefer tout ça. Merci de nous avoir fait vivre cette belle après-midi de vélo sur RMC.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Allez, on va donner un peu de la place à nos amis footballeurs, évidemment, pour les dernières secondes de ces matchs trépidants entre Reims, Nice et Toulouse-Strasbourg, Montpellier-Lorient. Au moins, il y a eu des buts, Julien. On rappelle quand même le temps, le score sur ce match.
Ouais, c'est terminé même, Christophe, à l'instant à Montpellier. Non, ouais, c'est terminé. Victoire Montpellier-Rennes, 2-0. Ouverture du score de TJ Savagnier sur pénalty. Et Caramo a, au bout du temps additionnel, a marqué le deuxième but. Et permet à Montpellier de mettre Lorient à 6 points ce soir. 7 si on compte le goal average. Un grand pas vers le maintien pour les hommes de Derzakarian ce soir.
Merci Julien, bonne fin d'après-midi. Toulouse-Strasbourg, Romain.
C'est terminé également au Stadium, 0-0, le derby des saucisses, ça s'est neutralisé totalement. Mais c'est un peu logique finalement, puisqu'on l'avait dit, les deux équipes avaient exactement le même nombre de points en classement, le même bilan. Et donc repartent avec un match nul de plus chacun, mais peut-être un peu triste par rapport à la qualité. Le vent a perturbé, c'est vrai, les occasions étaient plutôt toulousaines en première période, plutôt strasbourgeoises en deuxième. Et tout le monde, j'ai l'impression, se satisfait de ce 0-0 qui ne change rien pour eux au classement. Voilà.
Merci Romain, là aussi bonne fin d'après-midi. Et puis Arnaud Valadon en a terminé sans doute lui aussi pour Reims-Nice.
Ouf, heureusement, ouf de soulagement après une deuxième mi-temps assez fade. Les Niçois ont dominé la première mi-temps avec un raté incroyable de Boga Cajvin, mais au final 0-0. Nice reste cinquième, ne perd pas mais ne gagne pas non plus. Les Rémois, eux, grimpent de deux places à la septième place pour ce choc assez fade entre deux équipes qui visent les places européennes.
Merci Arnaud. Sébastien, heureusement qu'il y a eu le premier match de l'après-midi, parce qu'autrement t'es payé à rien foutre quand même,
hein, dire. Heureusement, je me suis plus régalé à regarder Paris-Roubaix presque. Non, mais ouais. On va surtout retenir la bonne opération de Montpellier avec cette victoire-là, ça leur fait un bien fou.
Ça repart en rugby.
Laisse-moi parler quand même.
Ça y est là.
Non, mais on va surtout retenir la victoire de Montpellier qui est hyper importante, 2-0 face à Lorient, en plus un concurrent direct. Ils sont pas sauvés, mais bon, ils font un grand pas quand même vers le maintien.
Très bien, merci Seb.
Place au coach.
Voilà, on va donner la parole, parce que là, je le sens, il trépigne depuis 2 heures, là. Il attend son heure, notre Wilfried, évidemment, pour ce match entre Toulouse et le Racing. Il a été
complètement pour la régie.
Pendant 40 minutes. Je peux vous dire que là, il va pas lâcher le micro pendant.
Mais pas du tout. Je signalais juste à nos amis en régie que ça repartait au rugby. Voilà. D'accord. J'étais pas censé couper la chic à Sébastien Piocelle, quand même. Voilà, c'est reparti, mon cher Christophe, pour le Stade Toulousain face au Racing. 10-0 pour Toulouse en début de deuxième mi-temps, et c'est Novaka et Lebel. Et voilà, vous le savez, c'est reparti au rythmique.
Exactement, bon, on a compris. Je pense que Flora Moussi va avoir du mal à te dompter durant cette deuxième période, puisque Flora va prendre le relais dans un instant. Il y a également un autre match de Ligue 1 qui vous attend. Bref, belle fin d'après-midi avec Flora, avec Wilfried, avec le foot, avec tout ça. Et puis évidemment, on reviendra sur ce Paris-Roubaix. La victoire donc de Mathieu Van Der Poel. Bonne fin d'après-midi sur RMC. Ciao.
RMC Intégral Sport.